Durer quand? Faut passer le temps, j'ai rien à faire. J'ouvre la porte, y'a rien dans le frigidaire. Je me trouve une bière, je l'échappe à terre. Maudite misère, je tombe en enfer. Avant de partir sa brosse, il faut déguster la belle brosse. Avant de partir sa brosse, il faut déguster la belle brosse. J'ai 3 balles de prise, il faut que je dégrise. Il y a 3 ans de début, mais je suis déjà dans la rue. Avant de partir sa brosse, il faut déguster la belle brosse. Avant de partir sa brosse, il faut déguster la belle brosse. Chou, la poque dans le fond, trouve du bon houblon, va pas trop loin, on a tout ça dans le coin. Il faut que tu bouges, traverse au toit rouge, oublie tes soucis, appelle tes amis. Avant de partir sa brosse, il faut déguster la belle brosse. Avant de partir sa brosse, il faut déguster la belle brosse.
Hey, Vincent, comment ça va?
Ça va bien, vous autres?
Certain. On va essayer de trouver le bon fit. Là. Ça, c'est le meilleur fit, je pense, qu'on avait trouvé la dernière fois.
Pas pire.
Ça va, Vincent?
Mm-hmm. Très bien. Content de vous voir, tabarouette.
Ah ouais, écoute, dans un nouveau studio.
Oui, le Sushi Studio numéro 2. Très bien installé.
Nice. À bois brillant. Le Flashwood.
Ouais. Le son est bon. C'est bien beau quartier en plus.
C'est bien ça.
Bien de rue.
Toi, Francky, ça roule?
Ça roule, vieux.
Oui, belle casquette.
Oui. Souvenir de notre beau voyage l'année dernière, Montmartre, quand on est allé voir la série mondiale, là, c'était un petit peu plus difficile de voir la série mondiale là, cette année.
Oui. De toute façon, tu n'as pas pris de gageur, donc c'est pas possible.
Ah, tu sais pas, vieux, à Las Vegas, Olive, pas pire, vieux.
Donc, c'est le retour de la belle brosse et son podcast avec Slim Jim Vini qui s'est prêté au jeu. Puis on a un invité qui va être là tantôt. Là. Il est arrivé, on va le présenter comme il mérite. Donc, on va juste faire une petite intro là, habituelle. Donc, évidemment, on a laissé passer l'été avant de se retrouver. Là. J'en ai fait un avec Jean-Philippe Bouchard et puis Marc Gagnon de Micro du Lac. Je suis allé faire un petit voyage là-bas, puis ils m'ont reçu vraiment encore avec Klaus. Donc, on est rendu à 443 membres, pas payé pour un groupe privé. J'ai été voir un petit peu dans les annonces. Là. Il y a plus de 300 personnes qui sont allées, comme on dit, voirer les lives. Là. Donc, c'est intéressant. Puis, j'ai décidé de les mettre dans des petites plateformes. Là. J'ai essayé ça là, dans des podcasts un peu gratuits. Il y en a qui sont payants, mais bon... On essaye, là. Ça peut être comique. On ne sait pas ce que ça va donner. Alors, aujourd'hui, Francis, on a le Toit Rouge qui revient en force avec une commandite. Le dépanneur Toit Rouge, toujours encore aussi généreux. Alors, Lise, Jocelyn, Nicolas, toujours le gros sourire. Puis, n'oubliez pas de parler de nous autres à soir, là. Puis, c'est comment que c'est. Alors, voilà. Donc, Francis, faites un beau voyage cet été dans la Gaspésie.
Ben oui, tu allais faire une belle tournée, Bas-Saint-Laurent, puis Gaspésie. En fait, l'objectif ultime était la visite de microbrasserie, des nouvelles découvertes, comme l'Octan, que je ne connaissais pas, qui est vraiment une petite micro situé dans un quartier industriel. Ils font juste vendre sous des heures de bureau, là, entre 8 heures puis 4 heures, 5 heures, tu passes là, puis tu prends ta bière, il y en a de la froide, il y en a de la chaude. Mais vraiment, le temps, belle découverte, bonne qualité de bière.
En tout cas, tu nous as fait découvrir pas mal de choses cet été, mon Frankie. Quand tu es revenu, on a eu le droit de goûter à des choses très, très le fun, honnêtement. Fait qu'on pourra en reparler peut-être plus tard. Oui. Alors, sans plus tarder, je vais présenter notre invité, vraiment. Là, on est vraiment chanceux. Je me sens, en tout cas, moi, personnellement, je me sens privilégié. On s'est manqué cet été. On a failli se croiser via Jean-Philippe Bouchard, mais ça n'a juste pas donné. Donc, Vlad Antonov, son prénom, c'est Vladimir. Puis, lui, il se nomme Vlad là, sur Facebook et un peu partout. Donc, est arrivé il y a 15 ans environ. Il pourra me corriger tantôt avec une idée en tête que je vais avoir des petites questions pour lui tantôt. Je pense qu'il va me trouver drôle avec ces questions-là. Là, la raison qu'il l'a amené au Québec. J'ai eu l'occasion d'écouter une de ses capsules avec des intervieweurs de Québec. Donc, si je ne me trompe pas encore, il pourra me corriger. Il vient de Saint-Malo. Belle région de la France que j'ai eu l'occasion de voyager avec, de visiter avec Fred Labelle, Fred Morin en 96. Et puis, dans le fond, là, je ne sais pas trop son statut présentement parce que ça, je pense, a évolué un peu avec Opéra, là, la microbrasserie à Jonquière. Tu te souviens, Francis, Opéra, on était allé en 2015.
C'était notre premier anniversaire, si je me souviens bien.
Premier anniversaire, c'était bar ouvert, 40$. J'avais pas vécu ça depuis le cégep. Il y avait un concert là, pour encourager un département du collège. Bref, on était surpris d'apprendre que 40$ bar ouvert, là, on avait l'impression qu'on avait 18 ans. C'était quand même assez comique. Donc, je me rappelle encore, là, on était comme pas sûr, hein, 40$. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est un bar ouvert juste à la bière. Ben, OK, on va y aller comme ça. Donc, on a fini pas mal là, hein, on va dire, Francis.
Je ne veux pas te contredire, mais je pense qu'on a bifurqué vers 2h et 2h30 du matin vers un petit bar dont je ne me souviens plus le nom. Si je le retrouve, là, ça va dire quelque chose, ça, Nathalie.
Genre de petit bar karaoké, je ne me trompe pas.
Ouais, un petit bar louche, mais bon.
Donc, si on a mentionné qu'on on a passé notre nuit dans le stationnement du Maxi de Jonquière, dans le Winnebago, c'est quand même assez drôle aussi. Et puis, pour venir à Vladimir, donc c'est un influenceur chroniqueur à Radio Énergie. Donc, vraiment intéressant. Puis, je pense que c'est un gars de party, honnêtement. Puis, en tout cas, de le regarder aller, là, ça m'a l'air d'un gars qui a vraiment... le Québec lui a rentré dedans. Puis, ça sera à lui de nous le dire. Donc, sans plus tarder, là, je vais inviter Vlad. Salut, Vladimir. Je peux t'appeler Vlad?
Sans aucun problème.
Super. Comment ça va?
Ça va très bien. Vous m'entendez bien, c'est correct?
Certains, ouais, vraiment bien.
Parfait. Donc, merci beaucoup. Merci de m'accueillir.
Ben, merci à toi. On se sent quasiment privilégié, là, plus que ça même. On s'en met d'autres choses à faire que de nous donner ce temps-là, mais je vais le prendre. On va le prendre, tout le monde, ici.
On va boire une bière ensemble, ou plusieurs.
Oui, je pense que plusieurs. donc, juste, Vladimir, dans le fond, notre action dans ce groupe-là, c'était pendant la COVID, on était dans un confinement quand même assez intense, puis... on a décidé d'un peu de mettre l'épaule à la roue puis d'encourager les brasseries québécoises. Puis on a fait former ce petit groupe privé-là. Puis du jour au lendemain, on a décidé de faire des dégustations parce que le dépanneur Toit-Rouge en faisait sur place. Puis avec la COVID, ils ne pouvaient plus le faire. Donc, on s'est prêté au jeu. Puis on leur a rendu service. Puis ils nous ont commandité ça. Puis on a fait plein de trucs là, avec plein de bières puis plein d'invités. Donc, c'est un peu l'idée. Puis je pense que ça a levé. Puis tu as vu un peu le concept. Tu es rendu membre. Puis tu vois un peu l'idée. Là, on met des photos. On découvre des produits. Puis on en discute. Puis c'est vraiment le fun.
C'est une très belle affaire.
Ben merci. T'es bien gentil. Donc, écoute, Vlad, on s'est fait un plan de match. On s'est parlé. On s'est écrit pas mal cette semaine. Encore là, tu sais, merci beaucoup. Là. Je t'ai peut-être dérangé par moment parce que tu as l'air hyper occupé.
Pas mal occupé, mais ça ne me dérange pas. Pas en tout, tu ne m'as jamais dérangé. Tout va bien.
C'est vraiment aucun gentil. Stress. Là, je sais que toi, tu as vraiment un dada côté nourriture. Donc, mais avant d'aller là, j'aimerais ça que tu m'expliques. Là, j'ai entendu parler que toi, ce qui t'avait vraiment attiré ici, c'était le plan de Nord de notre ancien premier ministre, Jean Charest.
Ben, c'était un petit peu avant. C'était un petit peu avant. Le plan Nord est arrivé par la suite, mais c'était moi j'ai eu l'opportunité d'avoir une offre pour faire un doctorat à Québec, donc à l'INRS, à l'Institut national de recherche scientifique. Je faisais mon master en France avant en géologie classique, et puis je travaillais dans un domaine qui était, il n'y avait pas grand monde à travailler mettons, sur la planète là-dessus. Donc, je me suis fait contacter par une prof de l'Université Laval qui m'a dit « Est-ce que ça te botte de déménager au Québec pour faire un doctorat ?» Puis, écoute, je pensais rester 3 ans. Puis, c'est ça. Ça fait ma 15e année maintenant. Puis ça, j'ai fait un peu de géologie par la suite. J'étais consultant minier. Puis, ça a très vite switché pour la bière à la place.
Ben oui, puis là, est-ce que toi, t'es actionnaire? Je sais pas, là, ça a quand même évolué. Actionnaire à l'Opéra.
Actionnaire à l'Opéra depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant.
Ah, ben félicitations, c'est un beau projet. Puis je pense que tu t'es accoquiné d'une petite fille de Chicoutimi-Nord, si je me trompe pas.
Exactement, c'est elle pas mal qui m'a fait déménager jusqu'au Saguenay, parce qu'avant, ben, on était à Québec les deux. Puis elle a fait un retour en région, elle m'a dit, t'embarques-tu? Puis je me suis dit, bon, ben écoute, pourquoi pas? écoute, j'ai bien fait parce que. Ouais, j'ai vraiment aimé la ville de Québec. Là, je travaillais au bateau de nuit jadis, la super bar à bière de Québec. Okay. Puis, j'étais pas mal ami avec tous les amis de l'Axe du Mal, du Chaise Aiguillon, tout ça. Donc, okay. Je traînais un petit peu déjà dans le monde de la bière quand j'étais à Québec.
OK. Ah, ben, c'est super. Là, on a parlé de quelques sujets, je les ai annoncés. Fait qu'on va commencer avec celui-là, les accords bière et bouffe. Mais tu sais, on va parler de plein d'affaires. Mais tu sais, je sais que vous, là, à l'Opéra, c'est vraiment la pizza qui est votre créneau. Puis, tu sais, j'aimerais ça que tu nous expliques d'où ça vient, puis c'est quoi les tenants et aboutissants du mix bière et pizza, parce que moi, je suis allé 2 fois, vraiment une bonne pizza, le four en cuivre est tout simplement malade. Je sais pas combien de pizzas vous rentrez là-dedans, puis je sais que c'est vite. On m'a parlé de 8 minutes à peu près pour que la pizza soit prête. Est-ce que j'exagère?
Non, c'est 1 minute à peu près, la pizza. Ça chauffe sur un méchant temps.
Ben c'est ça, donc parle-nous donc un peu de la pizza, puis pizza et bière.
Ben écoute, pizza, bière, ben moi mon dada dans la vie c'est vraiment les accords mets et bière, là. C'est pas mal ça qui m'a fait rentrer un petit peu dans ce domaine, surtout dans bière et plaisir, là. Ça fait 6 ans maintenant que j'écris dans le journal bière et plaisir, puis moi j'écris vraiment sur les accords mets et bière là-dessus, ça a été une révélation il y a quelques années en lisant les bouquins de François Chartier, là, qui faisait vraiment la sommellerie moléculaire. Ah ouais. Je me suis dit, il le fait pour le vin, pourquoi on le ferait pas pour la bière? Parce que tant qu'à moi, les arômes sont plus faciles et plus perceptibles dans une bière que dans un verre de vin. Hein? Parce qu'on a beaucoup plus d'ingrédients, évidemment. On n'a pas juste, c'est pas un seul raisin. C'est des cépages du houblon, c'est toutes les céréales, c'est des esters des levures, c'est des fruits qu'on va rajouter. Donc, l'accord, tant qu'à moi, est beaucoup plus facile. Donc, moi, j'ai vraiment travaillé là-dessus. C'est sûr qu'avec la pizza, on s'éclate un peu moins que des gros accords moléculaires poussés, là. Oh. Mais la pizza, je pense, c'est bière et pizza, c'est un des plus vieux accords au monde, là. C'est que ça fit ou que ça fit pas, là. Une bonne bière avec une pizza, ça marche toujours assez bien. Mais en gros, nous, ce que j'explique à notre staff un petit peu, moi, on n'aime pas ça, juger les bières par leur couleur. Une couleur, ça a pas de goût. Style de bière, ça a un goût. Ouais, puis, on fait un peu. Il faut faire pareil avec tout ce qu'on mange et puis tout ce qu'on boit. Mais pour les accords mets et bières, ça peut te donner des indices. En gros, si tu veux manger quelque chose, arrange-toi pour qu'il ait quasiment la même couleur que ta bière. Okay. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si tu manges un poisson blanc qui risque d'être assez fin et délicat, la bière blanche sera peut-être plus intéressante qu'un gros stout. Okay. Si tu bois une bière, mettons, avec des framboises. Bah, dis-toi qu'une belle viande rouge avec des betteraves grillées, tout petit quanti, là, ça risque de fitter aussi. Puis ta sauce barbecue, de ta viande très grillée, bah, ton poulet porc, bah, une BRT brune de couleur noire, ça risque de fitter aussi. Ah, donc ça, c'est la base de, notre staff, ça bouge, ça change un petit peu, on peut pas être toujours avec eux pour leur donner les pistes des accords. Donc ça, j'essaie toujours de leur dire, écoute, regarde la pizza, si quelqu'un te demande, regarde sur le menu des bières, puis essaye de t'arranger pour que ça fitte. Après, c'est sûr qu'il y a des affaires plus poussées. Quand il y a des gens qui vont me dire, écoute, moi, je veux une IPA, qu'est-ce que tu me conseilles avec? Et puis, on sait que l'IPA, ça a longtemps été la plus mal vue dans les accords mets et bières. On achetait des bières des IPA. Puis sur les accords, à chaque fois, c'était quoi? C'était un piment fort, un barbecue ou manger de l'Indien et puis ça va fitter. Parce qu'on savait pas trop où la mettre. C'est amer, ça prend quelque chose d'intense dans la bouche. Okay. Puis, à force d'avoir fait des combinaisons puis des événements où je cuisinais justement des accords mets et bières, on s'est rendu compte que finalement, il suffit d'apporter de l'amertume dans ton plat. Si tu as une bière amère et que tu manges quelque chose d'amer, ton palais va s'habituer aux deux. Et que les deux vont s'estomper. C'est pas quelque chose que tu bois amer, tu manges amer, donc c'est 2 fois plus amer. ça équilibre à l'inverse. Donc, okay. La petite pizza avec la roquette, c'est amer, de l'huile d'ail, ouais. C'est amer. Bah, justement, une IPA, ça peut être le bon moment. Rajouter un petit peu de safran qui est un amérisant dans ton plat, ça peut aider. Et que c'est, on s'amuse vraiment à jouer, c'est de la découverte aussi, évidemment, à chaque fois. Mais ouais, les cool. Accords mets-bières, ça peut se faire de mille et une façons, mais ça prendrait plus qu'une heure pour qu'on en parle.
D'ailleurs, j'ai notre premier produit, c'est une de vos bières qu'on va présenter. C'est la saison blonnée, puis j'ai aimé ce qui est écrit en arrière. Là. Ça donne quasiment le goût de le faire, honnêtement. On dit de l'essayer avec une tagine d'agneau braisé aux pêches et romarin.
Oui. Ben, c'est moi qui fais les étiquettes.
Quand même, ça me fait penser à un restaurant à Québec, la Maison du Maroc ou quelque chose du genre, là, pas loin de la rue Saint-Jean.
Ouais.
Je mange toujours une tagine quand je l'ai là. Mais honnêtement, elle est très bonne. Est-ce que tu peux nous parler de ce bière-là un petit peu, Dan?
Ouais, ça, c'est une bière qu'on a sortie juste avant le début du confinement. Là. Nous, écoute, on tripe vraiment sur les bières saison, mais les saisons ultra dry. Là. C'est quelque chose de très peintable. Là. On veut que ce soit spicy un petit peu. Puis, on avait ce Sabro aussi qui venait d'arriver sur le marché. Mosaïque Citra. Donc, moi, j'avais dit à mon brasseur, Philippe, j'aimerais ça que tu me fasses une saison ultra peintable, très sèche et super aromatique. Et que c'est pas mal le produit qui m'a livré. Donc, tu sais, la levure développe le petit côté spicy quand même. Il y a un petit côté légèrement poivré. Okay. On est sur une bière très, très sèche, donc il n'y a pas de sucre.
Ouais,
mais au final, il n'y a rien. Exact. Puis, le houblon a été mis vraiment beaucoup en aromatique. Là, donc, c'est sûr que le Sabro, il va développer cette touche un peu citronnelle, mais il y a aussi le côté tropical qui est là. Donc, tu sais, il y a très peu d'amertume dedans. Puis, c'était vraiment, on a fait une bière de soif. T'sais, idéalement, on l'aurait mis en canette, mais on n'avait pas encore notre canneuse. Donc, là, c'est ça. Elle a fait un petit bout de chemin en 500 ml. Mais c'est un produit qu'on espère refaire justement pour la canette.
C'est exactement le même que je m'en allais à décrire, Vlad. Là, tu m'enlèves les mots de la bouche. Elle est très bonne, là. Mais non, c'est pas vrai. J'aurais pas utilisé tout ça. Mais non, écoute, franchement, puis là, tu me dis, c'est pas évident. Je pense balancer tout ce qui est sèche, côté au nez. C'est très floral.
Là, c'est une bière d'été, hein?
C'est vraiment une bière estivale.
C'est ça.
Ben, tu sais, en même temps, moi. J'avoue, je suis pas raciste sur les saisons. Là, une bière, je peux boire l'été, je suis capable de la boire l'hiver aussi, et puis inversement. Là.
Moi, j'ai aimé ça. Il y a quelque chose que tu as dit dans un journal. Tu es un fervent du concept éco-friendly. Du bien manger du concept éco-friendly, ça veut dire quoi, ça?
Je ne sais pas si j'étais chaud quand je l'ai dit ou pas. On dit bien des affaires des fois, et puis deux mois après, on se demande ce qu'on a dit. Je pense que c'était pour le festival des bières de Saint-Malo. C'est comme ça que la personne m'avait décrit comme ami éco-friendly. Donc je sais pas. Okay. Je dois pas avoir un gros impact environnemental, si ce n'est que ma consommation de bière.
Puis dis-moi donc, fromage et bière, qu'est-ce que tu penses de ça?
Ah ça.
Il y a tendance un peu.
C'est tendance, ça revient. Mais moi. C'est pas l'affaire qui me fait le plus triper au monde. Parce que le fromage et bière, c'est essai-erreur. Et t'as pas le choix, là. Si tu connais ton fromage par cœur, c'est bien. Ça va te donner des indices. Évidemment, fromage plus fort, on pense à des bières plus fortes. Fromage pâte ferme, justement, les IPA ont leur place. Mais pour l'avoir fait avec l'Association des microbrasseries du Québec, moi, j'avais participé aux accords bière et fromage pour le gros concours québécois des fromages Caseus. Puis justement, j'étais avec Marc Gagnon de la Micro du Lac, on avait des gars de Noctem, il y avait Caroline Leclerc de la MDQ, des gars de la Barberie et puis justement les gars de l'Axe du Malte. Puis on avait, je sais pas combien, peut-être une cinquantaine de fromages à goûter. Et on avait des bières de tous les styles, de plein de brasseries au Québec. Puis on essayait de faire des combinaisons. Puis on connaît ça, mais on a eu du mal pareil. Okay. C'est vraiment, tu sais, on va penser des affaires, tu vas goûter, puis tu vas dire, ah non, en fait, ça goûte vraiment la dompe quand les deux sont réunis. Donc, c'est toujours faire l'essai-erreur. Le best, c'est vraiment de choisir des bières de différents styles, avec des fromages de différents styles. C'est exactement comme on a fait, c'est faire des combinaisons. Puis des fois, tu peux être surpris, genre, oh, ok, on pensait que mettons une pale ale, ça allait être bon. Eh ben non, c'est la petite bière surette aux fruits qui a pris la place. Donc oui, il y a des pseudo-fondamentaux. Là. Comme des pâtes fleuries, c'est sûr que des bières sauvages, fermières, ça va fitter avec. Mais le but c'est vraiment jouer, puis des fois justement on a des très 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 bonnes surprises, Puis on veut pas justement que ça fasse juste bon, bah c'est le fromage bleu, c'est les bières noires. Le fromage cheddar, c'est ça, parce que sinon si tu limites un peu, puis tu vas peut-être rater l'expérience de ta vie.
Fait qu'il y a pas de théorie vraiment.
Il y a pas de théorie, mais c'est ça qui est bien dans notre domaine, c'est la pratique. On mange en bois, on mange en bois, et puis on répète.
Écoute, le deuxième sujet là, de ce segment-là, c'est ton projet pilote sur votre espèce de ferme là, avec vos plants de tomates, ça, que je trouve vraiment super. Puis,
alors, on l'a arrêté par contre, mais oui, effectivement, on l'a fait.
C'est vrai?
Ça a été lancé par un de nos anciens associés, puis on s'est rendu compte assez vite qu'avoir une ferme et une brasserie, ça fait pas mal de jobs.
Ben, c'était ma prochaine question. Comment vous faites pour opérer tout ça?
Et on ne l'opère plus. On l'a fait pendant 2 ans à peu près. Donc, on avait des récoltes de légumes pour une petite partie de l'hiver. Puis, c'était tellement de job qu'on a fini par faire. Okay, on va travailler avec nos artisans locaux. On est ambassadeur de la zone boréale.
Avec la zone boréale, on en a parlé beaucoup.
Donc, on travaille vraiment avec le maximum de producteurs. Donc, on a juste arrêté notre autosuffisance.
Ouais, ben c'est ça, que j'avais noté. Je trouvais ça intéressant, honnêtement. Le projet était vraiment super, mais là, je me disais, comment ils font, tu sais, pour. Tu sais, je veux dire, ça prend du monde, là, pour faire ça, là.
Ouais, c'était donc, ça. C'était du monde, du temps, puis à un moment donné, on commence à manquer des deux.
À un moment donné, tu disais que le houblon, c'est une autre science, tu sais, que ça m'a intrigué parce que, tu sais, il y a plein de monde qui font pousser leur houblon, puis on est tous un peu amateurs, puis on est tous contents, mais quand tu dis que c'est une. Ben, pas toi qui disais ça, ton collègue, M. Roy, je pense.
Ouais.
Pourquoi c'est une autre science, le houblon?
Est-ce que c'était, tu veux dire, la science de la culture du houblon? Ça devait être, je pense que ça devait être ça. Mais oui, effectivement, c'est sûr qu'on avait des idées un peu différentes avec Mathieu. Là.
Okay.
Donc, lui, il pensait ça. Moi, je pense que ça va quand même assez bien, le houblon, comme tu le dis. Je pense que tout le monde... est capable de faire pousser du houblon assez facilement.
Ah oui.
C'est une plante indigène. Le houblon, t'en trouves partout. Nous, on en a trouvé en se baladant dans la forêt au Saguenay.
C'est vrai?
Tu sais, il pousse partout. Le truc, c'est est-ce qu'il va être bon ou pas.
Ouais.
Tu sais, moi, je prends toujours l'exemple de j'ai des vignes dans mon jardin. Là. Je ne ferai jamais un Châteauneuf du Pape avec. vraiment pas. Là. Peut-être tu sais, un vinaigre ou de la piquette. Là. Mais tu sais, c'est pareil avec le houblon. Ça prend évidemment un cépage, mais tu as une variété de houblon qui va être intéressante, oui, en aromatique ou en amérisant. Puis généralement, celui que tu trouves qui pousse tout seul dans la forêt, bah, n'a ni l'un ni l'autre. Puis tu sais, je l'ai vécu avec des amis brasseurs amateurs qui brassaient avec le houblon cueilli à gauche à droite. Puis c'était pas les IPA du siècle ou les
pays. Non, ben, on en a essayé nous autres, Vlad, dernièrement. Puis j'ai cru comprendre que quand tu veux faire une harvest beer, il faut que tu en mettes en tabarouette du houblon.
Oui,
puis là, c'est la quasiment toute ta récolte, là, tu sais, puis ça vaut qu'à la limite, ça vaut pas la peine quand tu n'avais pas poussé assez. Donc, je pense que c'est préférable de le faire sécher, puis après ça, tu mets en dry-up. C'est ce que j'ai lu, que c'était mieux des dry-up avec des feuilles que de la pellette, là. Je ne sais pas si je me trompe, là, mais en tout cas, bref, j'ai l'impression que c'est plus rentable pour le petit consommateur amateur qui veut faire de la bière avec, là, tu sais.
Oui,
exactement. Martin, on va se reprendre.
Ah oui, on va se reprendre, c'est sûr.
Et tu peux le cuisiner aussi, les cocottes de houblon, ça se cuisine. Là, il y avait des anciens brasseurs de Bocquet-Bière, Michael Parent, qui faisait confire les cocottes de houblon dans du miel. Puis on croquait ça. Et c'était hallucinant. Tu avais le miel qui justement balançait un petit peu l'amertume. Mais c'était assez malade. Moi, je faisais des suçons avec le houblon aussi, ou des petits jujubes de houblon. Donc, fais juste une grosse infusion avec tes cocottes de houblon. Puis après, tu prends ton eau infusée, puis tu t'en sers pour faire un caramel, sucre, un ci, un ça. Donc, je distribuais des suçons au houblon dans les événements à Montréal. Là, ça faisait un peu prédateur bizarre, comme des suçons que je ne connais pas. Là. Mais c'était safe, c'était juste des trucs qui goûtaient le houblon.
C'est drôle. Okay, je me suis prêté au jeu, Vlad. J'ai de la pizza de Shawbridge.
Yes.
Est-ce que tu connais la microbrasserie Shawbridge de Prévost?
Oui, monsieur.
Donc, j'ai passé là tantôt. Pardon?
Je ne suis pas passé encore parce qu'on est un petit peu...
Non, ben, c'est sûr que je ne suis pas dans le même coin, comme on dit. Hein?
Ouais.
Mais bref, je me suis prêté au jeu. J'ai arrêté tantôt avec ta bière. Je vais écouter. Là, il y a mon ami Vincent qui va jouer une chanson. Vlad, yes. Je t'avais dit, il y avait des tunes. Après ça, on va revenir avec le projet de... Ben, pas le projet, mais on va aimerait ça parler politique un peu avec la livraison de la bière au Québec qui est un débat présentement. Là, puis ça, c'est le fun qu'on... On peut s'en parler, puis que toi, comment tu le vis, puis comment nous, on peut contribuer comme consommateurs et tout. Donc, on va donner la scène à Vincent, qui est Slim Jim Vinny. Donc, on se revoit dans 3 minutes.
C'est bon, je regarde ça.
Toutes les suiveuses promènent en bande, soit à New York, soit à la Mecque. Toutes les lièvres, c'est des quick lunch, la peau, les os, le poil avec. Toutes les rivières vont à la mer, toute la bière y va aussi. Le reste du monde s'en va nowhere, moi pour ma part, je reste ici. C'est quoi l'affaire, méga projet, un casino ou une autoroute? C'est bien mieux changer de sujet, sinon c'est méga, non pas en tout. On vend pas le paradis terrestre, ni au bon Dieu ou ce qui en reste. As-tu besoin d'un 5 étoiles quand t'en as 5 milliards dans le ciel? Déménager mon lac sans déranger canard, possible fait qu'on tient sa mort. S'il y a plus de 6 000 euros dans la boîte à bois, s'il y a plus de colibri dans mon whisky, moi, va pas là. Eh oui, c'est ça la vie. J'suis arrivé sept ans 1800 en poursuivant le pavillon. Et puis c'est moi depuis ce temps qui s'occupe du réveillon. À l'ombre des oiseaux en fleurs, sous le feuillage des épinettes, je suis accablé de laveur, je vous donne un exemple de tempête de neige sur mon balcon, ça m'a coupé une partie de la nuit. C'est long de classer toutes les flacons, surtout compter les numéros de série. Mais ça c'est rien, demain 5 heures, c'est l'époussetage de tous les sapins. Le faux j'y ai, je suis porteur aux funérailles du maringouin. Déménager mon lac sans déranger canard, pour passer ma fac, l'on tient sa mort. S'il y a plus de 6 000 euros dans la boîte à bois, s'il y a plus de colibri dans mon whisky, moi, va pas là. Eh oui, c'est ça la vie. Oh yeah! Petite confidente, j'aime bien la bière, faut des bidous, ça je l'ai compris. Un compromis ferait mon affaire, rien que pour vous, je vais faire un prix. Combien ça coûte une veste de loup, du jus de tonnerre, la porte avant? Une douzaine d'œufs de carcajou, j'ai tout ça dans mon dépliant. Spécial mouche noire qui vous défrise des beaux bleuets avant l'été. C'est 20 bières chaque, les taxes comprises, l'armée en sus pour les compter. Là, j'additionne ça à mon bill en ajustant faire de jouissance. C'est 100 milliards à puissance 1000 en dessous de la table payable d'abord. Déménager mon lac sans déranger canard, pour passer ma fac, on tient sa mort. S'il y a plus de 6 000 euros dans la boîte à bois, s'il y a plus de colibri dans mon whisky, moi, va pas là. Eh oui, c'est ça la vie. Eh oui, c'est ça la vie. Eh oui, c'est ça la vie. Excusez-la.
Salut Vincent. J'aime ça. Moi, ça parlait de bleuet, ça parlait de bière, donc ça fait quand même pas mal régional. Là.
Ben oui, on faut aller chercher là. Hein?
Ah, c'est, écoute, là. On essaye à chaque fois d'arrimer la musique, la bière, la région avec qui on parle. Donc, Slim Jim, c'est un enseignant en histoire comme moi. Donc, ça fait un bon musicien dans ton bar, ça.
C'est pas badé qu'on
fait un bon musicien à l'opéra.
Hein? Dès qu'on va pouvoir ramener du monde un petit peu plus.
Ah, ça va faire du bien. Ouais, c'est une belle place à spectacle, honnêtement. C'est vraiment le fun. C'est
bien, ça. Bart, j'ai retrouvé le bar où on avait été l'autre soir.
L'Hippo oui? Club.
Non, le bar Nelson.
Opelai. OK, ouais. C'est bon.
Ça existe encore?
Ça existe encore. Oui.
Oui. C'est ça.
Ken, t'es bon d'avoir trouvé ça?
Ouais, spatialement, là, je me suis orienté vieux. Ça.
Un bibliothécaire, hein?
Écoute.
Hey, on va passer à la deuxième bière, Vlad, qui va nous amener tranquillement vers le sujet que je trouve le plus important, le ton projet. Alors, j'ai ouvert, j'ai changé ma bière dans un autre verre. J'ai pris ton verre que j'ai acheté cet été. Donc, j'essaie de rester concept. J'ai le chandail d'une bière de la micro de Saint-Gédéon, puis j'ai ma casquette du kilomètre 12.
Okay.
Alors là, je suis 100% régional.
Un vrai fan.
Ah ben écoute, on essaye. On a fait des achats cet été. Là, on boit une bière qui vient, la micro Épitaphe, c'est ça, Vlad?
Oui.
Je la connais pas, honnêtement, j'ai regardé, c'est embouteillé à Gatineau, ça vient d'où, puis la levure Vic, j'aimerais ça que t'en parles, parce que moi, je connais ça un peu, il y a du monde qui me dit, ouais, mais moi, quand je vois Vic, là, je suis pas sûr, qu'est-ce que ça veut dire, tu sais, je sais pas, ça serait le fun qu'on regarde ça.
Non, écoute, en fait, Vic, ça veut dire levure.
OK.
Donc, c'est ça que ça veut dire, c'est norvégien, me semble. Oui. C'est une levure que Martin Thibault a beaucoup travaillé pour la ramener au Québec. Il fait partie des messieurs qui l'ont ramené, là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les coureurs des boires. C'est pas mal un historien de la bière. Moi, j'ai toujours ses bouquins dans la bibliothèque à côté, là, un beau 700 pages.
Voilà, ah, exactement. Voilà, Francis.
J'avais eu l'occasion justement de cuisiner des accords Mets-Bières pour la sortie de chacun de ses livres. C'est lui qui avait donné le nom à mon service traiteur dans le temps, Rage Against the Cuisine. C'était le nom. Vous avez juste déjà événementiel pour le bière et bouffe. Puis c'est Martin qui a été vraiment visiter des brasseries, là, mais c'était entre guillemets, là, parce que c'est brasseries old school, pas mal, là. Une madame avec un chaudron dans le fond d'un champ quelque part. Puis justement, il brassait avec cette levure qui a la particularité de travailler très, très bien, très, très vite. Donc c'est ça une Kvik, c'est une levure qui va travailler à des températures qui peuvent être très très hautes. Elle peut travailler en 3 jours, ta fermentation est terminée. Puis elle va apporter des esters qui peuvent être aussi très 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 fruités là. Okay. Ça change beaucoup aussi sur ce qui se passe dans la bière. Toi, nous on a essayé une de nos IPA en changeant juste la levure et en mettant une Kvik. Puis ça a tout changé, même si la recette était la même. Ça a apporté vraiment un côté plus fruité. L'amertume était plus punché aussi dedans. Puis, on peut l'utiliser dans à peu près n'importe quel style, finalement.
OK.
C'est juste
qu'il y a plusieurs sortes. Hein? Tu as des Hornindal, tu as des Arcette, tu as des. C'est toutes un peu la même famille, je ne me trompe pas.
Ouais. Puis tu peux faire une Kvik IPA, tu peux faire une Kvik Pale Ale, une Kvik Stout. En fait, tu peux la mettre dans à peu près ce que tu veux. Là. Puis, tu sais, c'est le fait qu'elle travaille justement très, très bien et très, très vite. C'est une levure qui va faire qu'elle peut être très intéressante pour les brasseurs. Parce que, si c'est 3 jours de fermentation au lieu de 10, ouais. ça fait plus de bière que tu peux faire à la fin de l'année.
Ben, pour vrai, cette bière-là est bonne. Le miel, vraiment, le miel, il sort, il est goûteux, il est présent. Est-ce que tu la connais, celle-là, Vlad, ou je te l'ai montré puis tu l'avais.
Non, tu l'as montré, moi, je ne l'ai pas trouvé ici.
OK, mais tu la connais, là.
Mais je la connais.
OK, pour vrai, elle est bonne. Je ne suis pas un amateur de Lover Week, mais je la trouve vraiment bonne, celle-là, à cause du miel.
Il y a un bon accord qui se fait, puis côté bonbon aussi qui ressort, je trouve. Là.
Il va y avoir le miel aussi qui, même s'il est fermenté, va garder évidemment ses arômes parce que le miel est fermentissible aussi à 100%. Puis la levure va apporter justement ce petit côté un petit peu fruité. Puis tu veux pas, ça goûte un peu le miel. Fait que tu vas avoir ce côté un petit peu bonbon, exactement comme tu disais.
Francis. Le haut melon, peut-être. Je connais pas ce houblon-là, le haut melon.
Ouais, lui, c'est un houblon qui va être très fruité. C'est melon, mais ça veut pas dire qu'il va porter forcément un côté melon, mais peut-être plus un peu melon-miel. Mais t'as Denham qui a brassé des bières avec.
OK.
Et ils faisaient genre en 7,50 leur Berliner Weiss avec le Old Melon dedans. Et puis c'est justement, c'était 100%. Et puis là, tu pouvais vraiment goûter ce qu'il apportait. Là.
Première fois que je vois ça, ce houblon-là. Puis si on vient par rapport à la livraison de bière, tu sais, c'est un sujet que. Que, tu sais, ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, Arcan a parlé cette semaine. Donc, quand Arcan en parle, ben là, tout le monde en parle.
Exact.
Alors, tu sais, qu'est-ce que tu positionnes où là-dedans? Puis, à quel point, c'est dérangeant? Bref, comment vous vivez ça, vous autres?
Moi, je vais te parler je parle toujours des affaires un petit peu en dehors du cercle, là, parce que, tu sais, je suis politiquement correct en général. Mais, tu sais, justement, on en a parlé à la radio un matin. C'est sûr que, t'es pouvoir se faire livrer du pot devant chez toi ou des bouteilles de pinard par la SAQ, mais pas une bière. De base, il y a un petit problème dans le. Ça se tient pas du tout là. On n'a pas le droit de vendre des bières dans les marchés publics, mais tu peux vendre à peu près tous les autres alcools que tu veux. Donc encore une fois, tout est lié ensemble. Là. C'est la livraison de la bière, mais c'est aussi où est-ce qu'on peut la vendre. Puis c'est ça, c'est le fait de pas pouvoir livrer de la bière. Maintenant, le revers de la médaille. C'est, si les brasseries se mettent à livrer la bière aux autres, les détaillants, comme justement vos commandites, ils vont commencer à plus triper forcément parce qu'ils font une grosse offre pour les micro-brasseries. Ouais. Là, du jour au lendemain, c'est « Ah non, finalement, ma bière, je vais la vendre moi-même, parce que comme ça, je vais faire plus de cash.
Ah, » ouais.
Donc, tu vois, il y a des détaillants qui prennent ça un peu mal en me disant « Ouais, mais voilà, Voilà.
Ah ouais. Il y a un écosystème qui, là, qui existe. Là.
Exactement. Puis là, en faisant ça, bah, c'est un coup de pied dans la fourmilière. Évidemment, il faut voir des brasseries qui, eux, n'ont pas forcément de détaillants. Il y a des brasseries qui distribuent en très petite échelle. Puis il y en a qui font leur livraison eux-mêmes. Et pendant le Covid, là, s'ils avaient pu justement shipper des bouteilles par la poste, ça aurait pu aider. Puis ce qu'on a vu aussi, c'est là où ça peut aider, c'est parce que les brasseries en ce moment qui sont fermées en zone rouge, ben, ouais, toutes les bières qu'ils avaient dans leur fermenteur, ben, elles sortent plus. Donc, ils se retrouvent avec des inventaires de bouteilles, plus ils embouteillent ce qu'ils avaient mis dans les fermenteurs, ben, tout pour le pub. Donc, c'est là, il faut qu'ils passent les excédents. Mais tu sais, quand tu as envoyé tes représentants sur la route, puis que toutes tes tablettes d'épicerie sont pleines de tes produits, ben, il faut trouver un autre marché parce que sinon, tu es poigné avec encore des caisses et des caisses d'inventaire. Donc, ça, c'est Jean-François Gravel de Dieu du Ciel qui disait ça. Il fait, moi, j'ai des inventaires, à plus savoir qu'en faire. Puis, si on pouvait livrer directement chez les gens, ben, ça nous donnerait un petit coup de main. Sans forcément perdre le côté des distributions classiques, mais ça pourrait aider.
Mais je suis surpris pour M. Gravel, parce qu'il livre un peu partout dans le monde, là, de ce que je comprends. Il en vend quand même pas mal. Je suis surpris qu'il soit pris avec l'inventaire, parce que ça me paraît d'un grand vendeur là, à travers le monde. Là.
Ouais, mais tu vois, la pandémie a fait changer pas mal d'affaires. Okay. On pense aux gars, aux boys de Messorem à Montréal. Ouais. Tu vois, ils sont venus m'apporter de la bière au Saguenay. On a fait un tap takeover à l'Opéra samedi dernier. On était comme on a eu Brasserie du Bas-Canada au début du mois d'août, puis Messorem après. On est quand même assez chanceux. Puis les gars sont allés faire des livraisons de canettes aussi, parce qu'ils disaient pandémie, les gens, là, ils veulent plus taper un line-up de 2 heures dehors en zone rouge.
C'est vrai.
Donc, tu es plus le pub qui est fermé, ben, ça fait qu'on se retrouve avec des excédents de produits, puis il faut trouver une manière de les passer. Puis c'est justement le moment de dire « Aïe, si boire, là, vos… » Bip de loi de bip qui date d'il y a trop longtemps, il serait peut-être temps de les changer un petit peu.
Ouais. Donc là, vous trouvez un peu, dans le fond, le tu sais, genre de milieu entre pas faire mal aux dépanneurs puis aider les micros, c'est ça?
Exactement. Mais ça,
c'est pas facile à faire, ça.
Non, ça va être chaque brasserie qui va le détruire. Moi, j'ai un distributeur. Fait que, ça passe ou pas, je pense pas que je vais shipper de la bière, m'occuper de ma propre distribution. Ça, c'est sûr que non. Parce que nous, on a un distributeur qui fait très très bien son travail, donc on va rester de même. Mais tu sais, en même temps, on n'est pas non plus, on fait pas 14 milliards de litres par année non plus. Que ça va être vraiment aux brasseurs de voir, tu sais, jusqu'à où ils peuvent aller dans cette situation-là.
Good. Ce qui m'amène à ton projet, les levures régionales d'Opéra. Oui. Moi, j'avais lu un article, ça fait quand même un petit temps, là, je l'ai ouvert d'ailleurs dans mon ordinateur. Là, on parle de cet article-là, on parle de 2019, donc ça fait pas si longtemps que ça finalement. Mais là, toi, tu as un projet de vouloir faire des levures régionales. Est-ce que ça donnerait un peu le même effet qu'une VIC finalement? C'est ça un peu le même projet, le même but?
Alors en fait ça a démarré en regardant ce que notre ami Francis Jonca faisait à Pied Caribou, puis maintenant à Brett et Sauvage. Bon, en fait son projet c'était vraiment isoler des levures dans son beau coin de Gaspésie pour pouvoir fermenter ses bières de manière spontanée. Puis là quand on voyait ce qui sortait, on s'était dit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, t'es dans le genre de place où on est quand même un petit peu creux, mais on est vraiment dans le sauvage. Peut-être que nous aussi, on pourrait réussir à isoler des levures sauvages. Il y a un laboratoire à la Pocatière qui s'appelle le Labo Solutions Brassicoles. Mm-hmm. C'est le laboratoire qui fait des levures pour beaucoup de brasseries, y compris pour nous. On les a contactés en disant, est-ce qu'on pourrait vous envoyer des échantillons de moût fermenté avec des affaires pour voir s'il y a quelque chose dedans? Donc, ils ont dit évidemment oui. Donc, on avait, je pense, un peu plus d'une trentaine d'échantillons. Donc, on a été prendre des bleuets dans les bleuetières de Mamelon, c'est biologique, j'en ai cueilli vraiment partout. Du miel sauvage.
Les bleuets et miel sauvage, moi, c'est ça.
Et puis, il y avait aussi du chanvre sauvage.
Ah oui?
Ouais.
Il y a ça chez vous?
Rien entendu.
Il y a ça. C'est du chanvre sauvage. Voilà. On a essayé, puis qui a marché. Ça a été les trois échantillons qu'on marchait sur la trentaine qu'on a essayé. Donc, en fait, on prenait vraiment un mou et on le laissait à 30 degrés, on mettait les ingrédients dedans, on ferme, on fait tourner, puis après, on regarde s'il y a éventuellement une levure qui s'est développée dedans. Donc, on avait isolé ces trois levures qui sont des Brettanomys. Donc, c'est vraiment levure sauvage.
Oui.
Puis, on a eu l'occasion d'essayer surtout celle issue sur le miel qu'on a réutilisé au pub déjà, et puis celle sur le chanvre sauvage, parce qu'on avait fait une bière pour le groupe Grimskunk, Donc, on trouvait que c'était assez adéquat d'utiliser cette levure pour faire une bière.
Oui, effectivement.
Qui ont jadis prôné, c'est ça, le pote, pas mal.
Puis, imagine, quand le chimard aussi, devait pas aller ça.
Oui, effectivement aussi.
On en parlera tantôt.
Mais ça nous a donné des belles levures très, 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 très belles, là, assez fruitées, pas mal. Puis, mais tu sais, c'est des essais à faire. Là. Oui, on a eu les levures, mais il faudrait qu'on fasse un paquet de dégâts de bière pour voir vraiment définir son profil aromatique.
Peut-être à petite échelle, peut-être des petits brassins d'une vingtaine de litres, 30 litres pour voir.
Avant, ouais. On avait fait une petite sour avec du houblon Motueka avec cette levure-là, qui était vraiment très, 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 très nice. Puis sinon, je sais même plus dans quoi on l'avait utilisé. Là. On a fait comme pas mal d'essais, mais elle est encore disponible au labo. Là, justement, on attend un petit peu de voir quand est-ce qu'elle
va venir. Parce que tu sais, tu parles, mettons, la levure, c'était la pièce manquante qui manquait pour faire une bière 100% québécoise. Puis honnêtement, moi, mon opinion là-dessus, je suis un peu sceptique parce qu'on dirait que j'en essaie des bières. C'est marqué 100% Québec, puis j'ai pas été impressionné encore. Puis, est-ce que je pense, selon mon opinion, c'est le grain. Est-ce que le malt anglais, le malt tchèque ou le malt, je ne sais pas moi, belge, a vraiment une coche de plus où ça sera toujours comme ça, où on a ce qu'il faut pour compétitionner au niveau du malt?
Ben, moi, je pense qu'on a ce qu'il faut pour compétitionner, ça, c'est un fait. Après, c'est évidemment, c'est le choix, tu sais, quelle bière tu as goûté, quelle brasserie l'a fait, quel style.
Ouais, exact.
Parce qu'on regarde les fermes brassicoles, là, moi, je pense à la Schwab à Saint-Félicien, là, où Louis fait pousser toutes ses céréales pas mal. Et puis, tu sais, ses bières avec toutes ses céréales sont pas mal sa coche. C'est ces saisons qui me font capoter. Ces saisons avec son sarrasin. Moi, j'avais été brasser une collab avec. Et puis, tu sais, il me fait, on va mettre du sarrasin. Viens-t'en, on va dans le silo à grains. Wow. Et tu sais, il venait de le récolter quelques jours avant. Hein. Donc, c'est la chaudière dedans. Et puis, fouic, dans le mashton. Et tu sais, il cultive, il récolte, il fait le maltage. Et puis, il reçoit après son orge malté. Puis, c'est sa coche, là. Okay. Puis le houblon s'en vient aussi, mais encore une fois, quand on reparle de houblon, on reparle des brevets. Donc, tu sais, si on veut une bière 100% québécoise, il faut que ça ait poussé. Mais là, est-ce que si on a pris un houblon du Galaxy, du Mosaïque, est-ce qu'on peut dire que c'est une bière québécoise ou pas? Donc là, je pense qu'il y a des hybrides qui sont en train de se faire au Québec pour développer des houblons hybrides avec des variétés autochtones ici et puis des variétés un peu plus américaines. Donc là, ça se peut qu'il y ait quelques souches de houblon québécois qui voient jour prochainement.
Parce que on le voit déjà, là, mettons, on achète un houblon un Mosaïque, peut-être pas Mosaïque, c'est pas un bon exemple, mais il y en a qui est comme UK, puis l'autre qui est plus USA. Ouais. Donc c'est ça que tu appelles l'hybride, Vlad?
Ben, l'hybride, c'est l'hybridation, c'est pour créer des nouveaux types, c'est pour pouvoir dire qu'on a un vrai houblon québécois. Il va pas apparaître comme ça du jour au lendemain. Donc, il va pas trouver une touche. Il y a beaucoup de nouveaux houblons américains là, qui sont sortis. Et puis justement, ils font une hybridation de houblons un peu plus sauvages du Nouveau-Mexique avec juste des citras, des affaires de même, des trucs plus punchés. C'est leur moyen de créer des nouveaux houblons. Puis ici, c'est ce qui va se passer aussi. Si on veut créer un nouveau houblon, ça nous prend deux houblons qu'on va essayer en fait de vraiment mixer un peu la génétique pour créer quelque chose de nouveau. Okay. Mais c'est du travail qui est très, très long. Là. Pour certaines variétés, là, on parle d'une vingtaine d'années avant que le houblon soit disponible à partir du début de l'hybridation.
Puis pour venir à la lover, je pense que M. Jonca, c'est ton mentor. C'est un gars avec qui tu travailles beaucoup. C'est un gars qui est comme vraiment dans les top au Québec qui s'en vient. Je pense qu'il y a un projet qui s'appelle Brett et Saveur, je ne me trompe pas.
Oui, c'est surtout un bon ami.
Ah, OK, cool. Ben, c'est un bon ami à avoir, je pense, quand tu as un projet comme ça.
On a eu la chance de goûter. Il est passé au Saguenay parce que son équipement de brassage est fait ici au Saguenay pour Brett et Sauvage. Et quand il est passé, pour regarder un petit peu son passage, là, il est passé à l'Opéra un soir où on a ouvert pour lui, mais on était entre nous. Puis il nous avait apporté justement des bouteilles de Brett et Sauvage avant la sortie. On a eu la chance de boire quelques bouteilles. Et puis,
Ah bon?
C'est pas mal.
Est-ce que son pote, Vlad, a eu la chance d'ouvrir Brett Sauvage? Parce que moi, quand j'étais allé en Gaspésie, on n'était pas sûr si c'était ouvert ou pas, ou ça ouvrait en automne, ou ça a-t-il ouvert récemment?
Pas encore. Il a fait de la distribution un petit peu de bouteilles. Puis, tu vois, cet été, ils ont décidé d'agrandir déjà, avant d'être ouvert. Et qu'ils ont recoulé une dalle de béton pour avoir plus de place, pour, je pense. c'est food chain et ci et ça. Fait que c'est quand tu agrandis avant même d'avoir ouvert, c'est probablement un signe que ça va bien marcher. Ouais, mais Francis a toujours été, il est ultra smart. Et, le milieu brassicole québécois, en général, c'est beaucoup de collaboration. Il n'y a pas tant de
c'est tellement beau. C'est tellement beau à voir, honnêtement. Là, j'adore voir ça comme Québécois, comme consommateur. Puis j'aime ça de voir les micros s'entraider, puis de collaborer ensemble. Ça fait partie de nos valeurs, je pense, les Québécois. Honnêtement, on a toujours été comme ça, à mon avis. Là.
Vraiment. Ben, tu vois, c'est pas partout que ça pense pareil. Là. Si vous êtes passé voir les gars de Pibrac, microbrasserie de Jonquière aussi, c'est une usine. Félix, il va souvent en Amérique du Sud parce que il y a des amis là-bas, etc. Puis il a travaillé quelques collaborations avec justement des Boliviens. Puis il disait, oublie ça là-bas de faire une collaboration. Là. Les gens, ils veulent, ils se parlent pas, c'est la guerre.
Ah oui.
Il donnait pas la recette, même lui qui est un brasseur québécois, s'il demandait des informations, le gars était genre quasiment, non, ferme-toi les yeux, choisis mon houblon. Donc c'est très très québécois. En France, ça se fait aussi beaucoup, mais ouais, on a cette chance de pouvoir s'entraider énormément.
Ah ben c'est bien. Écoute, Vlad, on y va pour une autre chanson. On va faire les autres bières. On va les montrer. Je pense qu'on va les boire pendant la 15 minutes qui nous reste.
Vous êtes capable.
Ah, à date, ouais, ça pourrait être capable, on est capable. on va pour une toune, puis après ça, on va présenter deux bières, puis avant de partir, on va présenter les autres, c'est bon?
C'est aucun problème, je reste avec vous.
OK, Vincent, c'est ton show?
Yes, très intéressant, les boys. Ça m'a inspiré l'histoire de quelqu'un qui emménage, quitte son pays, puis arrive une vieille chanson que j'ai déjà faite ici. On y va. Moi qui avais les belles îles, les buttes et les sillons, me l'a perdu en ville, tout seul dans des millions. Puis sur les autobus, au Pizza King du coin, les gens me parlent pas plus que si j'étais un chien, tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire. Je prendrai mes couches, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Il y a quelque chose qui dit que bon matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur notre pain. Une chance que toi tu m'aimes assez pour m'endurer. C'est comme pendant le carême, quand je vole des candies, je me considère lucky d'avoir ma Rosalie. La ville est polluée, l'air est pur dans mon lit. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, j'prendrai ma couche, j'prendrai ma gueule, mais je laisserai faire. Il y a quelque chose qui dit que bon matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur la pain. Une chance que toi tu m'aimes assez pour m'endurer. C'est comme pendant le carême, quand je volais des candies, je me considère lucky d'avoir ma Rosalie. La ville est polluée, l'air est pur dans mon lit. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai mes taux, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Il y a quelque chose qui me dit que bon matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur notre pain. Je suis naufragé en ville, chez une bande inconnue. Rosalie, t'es tranquille, puis tu chantonnes même plus. Je travaille pour pas grand-chose, on vieillit comme des fleurs. Les seuls bouquets de roses, c'est les lettres du facteur. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai mes taux, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Il y a quelque chose qui dit que bon matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur notre pain. Ma Rosalie, on mettra du beurre sur notre pain. Ma Rosalie, on se retournera d'où c'est qu'on vient.
Hey, c'est pas merveilleux ça, mais je trouve un spectacle de musique live comme ça dans notre confort quand même.
Dans le fond du salon.
pas cher. Quand même assez innovateur.
Merci.
Là, Vlad, j'ai sorti un verre là, que je ne sais pas qu'est-ce que ça fait chez nous, mais je pense que j'étais allé au Mondial de bière avec Francis, Francis qui est avec nous à Chambly. Puis, ça prenait un verre pour, évidemment, pour le voir, pour avoir notre volonté. Puis, je suis tombé en amour avec ce verre-là. Ça te dit quelque chose?
Oh oui, c'est Nord de la France, ça.
Non, pas de Calais.
Non, ouais, exactement.
Comme le film.
Ouais.
Donc, parce qu'on va parler de Saint-Malo. C'est vraiment ta ville natale?
C'est ma ville natale, ouais.
C'est vraiment une belle ville. Moi, je suis allé en 96 en backpack avec un ami. Puis on a dormi dans un rond-point où il y avait de la verdure, puis on ne savait pas coucher, puis on a dormi là.
Ça a dû m'arriver aussi.
Je me suis réveillé le matin, le gars il arrosait les plantes là, pour l'entretien un peu paysager, puis on s'est levé, puis le gars il a fait le saut comme ça se peut pas parce qu'il pensait pas qu'il y avait du monde qui dormait là. On avait laissé nos sacs à dos dans la gare de train de Saint-Malo, qui est vraiment belle d'ailleurs.
Ouais.
Puis, il était comme 1h du matin, il fallait se trouver une place à dormir. Ben, on a dormi dans le rond-point. Ben, c'est vraiment une belle ville. Puis je me suis toujours demandé, puis j'ai pas investigué comment ça se fait que c'est fortifié comme ça. C'est quoi l'histoire de Saint-Malo? Pourquoi c'est fortifié de même?
C'était vraiment en fait, la ville a été rajoutée par la suite. Là, ça a commencé vraiment avec cette ville fortifiée qui était un repère de corsaires. Donc les corsaires, c'est l'équivalent, mettons, gentil des pirates. ils faisaient exactement la même affaire. C'était pas des doux, c'était pas des tendres, mais sauf que le roi de France leur donnait l'autorité de le faire. Donc les corsaires, c'était tiens, allez saccager les bateaux des Anglais là-bas, allez faire ci, allez faire ça. Puis vu que vous travaillez pour nous autres, c'est tout à fait safe de piller, de se gâter, de faire plein de saloperies. Donc c'était la ville des corsaires, et puis évidemment, elle n'était pas accessible par la route à l'époque, donc c'est pour ça qu'elle a été fortifiée. Parce qu'on ne voulait pas se faire attaquer. C'est par la suite qu'on a rajouté justement toutes les digues et compagnie qui permettent de se rendre en voiture maintenant.
En tout cas, c'est vraiment beau, honnêtement. Le pavé uni partout. Puis,
t'es comme dans un film. Hein.
Ça a été une des plus belles villes que j'ai faites avec le Mont-Saint-Michel qui n'est pas tellement loin. Là.
Ouais.
Donc, c'est honnêtement très, très beau. J'aimerais ça qu'on parle de deux bières. J'ai pris une bière de chez nous parce que nous autres, on est à Saint-Jérôme, Vlad, puis Dieu du ciel, on n'a pas besoin de la présenter. Là, c'est quand même une de nos préférées. Là. On est chanceux de l'avoir dans notre cour. Mais cette bière-là, avant, elle n'avait pas de brette dedans.
Exact. C'est une version
brette. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont changé pour de la brette? Puis,
Ça a été des tests qu'ils ont fait. Je pense qu'elle était sortie dans la, tu sais, comme les bières de Noël, mettons, ou événement spécial. Ils avaient vraiment fait un essai de la dernière volonté avec des brettes. Et puis, je pense que des fois, quand tu fais des petites séries un petit peu hors normes et compagnie, si tu tombes sur un produit que finalement, ça a bien rendu, bah, tu te dis, bon, bah, je vais le continuer, je pense. Mais ça c'est la première fois que j'ai goûté à ça. Moi, ça, j'avais pris une claque sur le coin de la gueule. Que vraiment,
je savais pas que c'était une bière belge, honnêtement, à la base. Là. Puis, puis la brette, comment, tu sais, quand c'est arrivé, je sais que d'après moi, Saint-Tite ont été des premiers en enfer, si je me trompe pas.
Il y en avait, mais c'était rare.
Une bouteille, brette, ça veut dire quoi?
C'est la levure qui va être utilisée, qui est une levure sauvage, Brettanomyces. Donc, c'est une levure sauvage, donc on la trouve dans la nature. C'est la levure, surtout, que les vignerons détestent.
Okay.
Donc, c'est le genre, justement, les bières qui vont être brettées ou fermentées avec des brettes. Si tu veux faire des holkers à un sommelier classique, tu lui sers ce genre de bière.
Okay.
Parce que c'est un défaut dans le vin.
Ah. Hey, je dois être un sommelier de bord parce que moi, je sens ça au nez. Puis
t'es pas capable. Mais
un cheval, ça sent le cheval.
C'est l'écurie, c'est le cheval. Il y a le clou de girofle qui sort beaucoup aussi dans les bières qui sont brettées parce que c'est une des molécules aromatiques que cette levure développe est très très proche de l'eugénol qui est le fameux nez du clou de girofle. Mais il faut faire attention avec les brettes parce que c'est une deuxième refermentation qui va faire que ça va développer ça.
Okay.
Si tu fais une bière fermentée 100% avec une brette, bah au contraire, elle va sortir des arômes très 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 fruités. Parce que si vous pensez à microbrasserie Sutton Brewery, donc à Sutton, donc c'est pas Troyes qui fait ça, qui est un ancien justement de du ciel. Par la suite, il était chez Dunham.
Dunham, on parle avec la brette. Eux autres, ils aiment ça en faire avec la brette. Hein. C'est des spécialistes. Ben, c'est vrai.
Pat, ils brassent 100% brette.
C'est ça.
mais il n'y a aucune de ces bières qui goûte la Brette.
Exactement. C'est ce que j'ai trouvé parce que je suis allé l'année passée, je ne me souviens plus trop, puis on n'aimait pas la Brette, ma conjointe et moi, puis ben, il a dit ben c'est parce que c'est tout brassé avec la Brette.
J'ai vu ça.
C'est vraiment bien. Ça veut dire que c'est bien fait, là.
Ça veut dire, ben, c'est parce que quand elle sait 100% Brette, elle ne veut pas développer ça. La levure, la Brette, ce qu'elle va faire, c'est que si tu as une première levure qui fermente ta bière, donc ça développe des molécules aromatiques, les esters, les cides et ça qui va donner le goût à ta bière finalement. Puis la levure, elle va les pogner, elle va les bouffer, puis elle va les transformer en cette odeur que Francis, tu adores, pour lui donner justement son caractère. Donc tu sais, on parle de levure sauvage, c'est aussi c'est les arômes qu'on retrouve, c'est cette levure qu'on a dans les lambics, dans les gueuses, dans les rouges des flancs, slash tout, qui donne ce côté très, très fermier finalement. Mais moi, c'est une levure que j'adore. Moi, je l'avais découvert avec la Rouge des Cantons de Bokebière à l'époque, qui avait brassé ça il y a un crime 12, 13, 14 ans, qui était une des premières Rouges des Flandres au Québec. Puis j'avais pris une méchante volée aussi, hein, parce qu'on c'était dans les premiers à faire. Si on voulait en boire, c'était la Rodenbach Grand Cru qu'on était peut-être capable de boire dans un bar à bière de temps en temps. Puis là, maintenant, tu fais une tablette de dépanneur à bière et puis de la Brette, là, t'en as en sapin d'hypopète.
Puis, qu'est-ce qu'on a en vue sur cette belle bière de Saint-Tite avec les pommes qui viennent de Saint-Hyacinthe, si je ne me trompe pas, de la cidrerie Molton, je pense que c'est dans Milton, je pense que c'est dans
Saint-Hyacinthe. Qui étaient les anciens vergers de la colline. Puis, okay. Ils sont basés sur la levure qui était sur les peaux des pommes pour faire leur fermentation. Parce que tu sais, les fermentations spontanées, là, justement, à date, au Québec, il y a pas mal juste Brette et Sauvage qu'on fait, ou Pete Caribou avec sa perséide, mais c'est le même gars. C'est très, très rare, parce qu'évidemment, ça prend une faune-flore qu'il y a dans l'atmosphère qui va être capable de fermenter la bière. Puis à l'affût, ils se sont dit, ouais, mais des pommes, il doit y avoir des levures là-dessus. Fait que si on prend les pommes, puis on les balance dans notre bière, on va faire une pseudo-fermentation spontanée avec les levures qui sont contenues sur la pomme. Donc, j'ai vraiment aimé ça, ce concept de « on va servir vraiment du fruit pour faire un hybride ». Parce qu'un vrai cidre, normalement, ça fermente, tu le fermenterais. En Bretagne, justement, là d'où je viens, on boit beaucoup de cidre. Puis, on fait juste… Bon, on broie la pomme, on prend le jus, puis on le laisse dans un fût de chêne, puis ça fait du cidre naturellement. Parce que la levure qui est sur la pomme va permettre de fermenter pour faire ton cidre. Au Québec, on va rajouter des levures de vin blanc pour monter ça un peu plus haut en alcool. Donc, c'est le fruit contient suffisamment de levure pour faire une fermentation. Donc, en le mettant dans une bière, bah, tu vas avoir cette fermentation sauvage. Donc, il y a encore une fois, on retrouve un peu de Brette, on retrouve le côté plus giroflé que vraiment l'écurie animale de la dernière volonté qui, elle, est très, 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 très racée, là. Mais la version d'à l'affût aux pommes, c'est plus délicat. Ça fait un peu plus tarte aux pommes ou gâteau aux pommes de Noël là, avec les petites épices, muscade, poudre girofle et compagnie. C'est un très, très beau produit. Moi, j'adore toutes les expérimentations spontanées d'à l'affût.
D'ailleurs, tu l'as conseillé, je t'en ai envoyé quelques-unes. Tu m'as dit si elle comprend. On va y goûter tantôt, là, parce que là, la dernière volonté, on va se le dire, là, elle décape un peu. Là, donc, OK. On va revenir. Je vais revenir au sujet là, du craft beer à Saint-Malo. Vlad, quand j'ai lu sur toi, est-ce que je fais souvent ça là, pour avoir un petit peu d'inspiration quand je fais mes devoirs pour que je lise un peu sur les gens. Mais est-ce que c'est toi qui as parti ce craft beer-là à Saint-Malo ou tu as été invité?
Comment ça s'est fait? Écoute, ça a été vraiment. Je me suis incrusté au festival à la première année. Donc, c'était il y a 3 ans. Ça a donné que. J'avais pris mes vacances pendant ce festival de bière. Donc, tu sais, je me dis, oh, bah, ça tombe bien, il y a un festival de bière. Puis, je pense que le festival était honnêtement à 200 mètres de là où je restais. Donc, tu sais, c'est pas trop loin. Puis, j'avais.
C'est bien contacté...
à pied, ça. Ouais, bah, en titubant, en roulant. Mais j'avais contacté tout simplement l'organisateur en lui disant, bah, écoute, moi, je viens du Québec, mais je suis originaire de Saint-Malo. Puis, mais donc, je connais un petit peu la bière. Puis, ça te tente que je fasse un petit speech sur la bière au Québec. Ou en fait, de ce que tu veux, bah, ça va me faire plaisir. Donc, il m'avait invité à faire un atelier justement de cuisine pour les accords mets et bières. Mais donc, la veille, j'ai retrouvé justement Jean-Philippe Bouchard de la distillerie du Fjord, kilomètre 12, qui était à Saint-Malo aussi, qui est venu me rejoindre.
Ah, pas vrai.
Qui avait pris ses vacances aussi en même temps.
Lui, il était à Paris pour vendre son gin. Il a pris le TGV et puis il nous a rejoint pour le festival. Donc, on a peut-être fêté un petit peu fort et le lendemain, j'avais vraiment pas le goût de cuisiner et j'avais surtout rien acheté. Donc, on a juste fait une petite, petite conférence dégustation de bière québécoise. Puis l'année d'après, Xavier leur a demandé que tu sois le parrain du festival maintenant. Puis ça fait deux ans que je suis le parrain du festival. Fait que, c'est ça, je fais des petites conférences un petit peu plus poussées sur les accords, sur c'est quoi la bière, et puis évidemment, qu'est-ce qui se passe au Québec, toujours avec des petites dégustations. Très, très beau.
La bière en France, à part Cronenbourg, que j'ai eu l'occasion, je suis allé à Strasbourg avec ma conjointe, on a mangé la tarte flambée, ou ça ressemble à une pizza, là, la flambée.
La flamencoche.
Ouais, exactement. Ça a été notre première journée qu'on est arrivé là. On n'avait pas dormi, ça faisait longtemps, puis c'était à volonté, je pense. C'était pizza à volonté, puis tu avais deux pichets, puis c'était les trois brasseurs, parce que ça vient de là.
OK, ouais.
Est-ce que je me trompe?
Ouais, je pense
que oui. On parle de ça en 2003, là. Mais la bière en France, c'est présent, c'est un peu...
De plus en plus. Tu sais, quand je pense que c'était l'année dernière, me semble, il y a beaucoup de sommeliers bière, de critiques bière. Là, ça, par contre, il y en a vraiment énormément là-bas. Tout le monde sort des bouquins. Puis, on me disait que ça devait taper le 1800-1900 microbrasseries à peu près.
Oh, quand même.
Ça, c'était l'année dernière. Et puis, je peux t'assurer qu'ils ont dû taper le 2000 cette année. Parce que je vois, dans la région, une ville Saint-Brieuc qui doit être à peu près gros comme Jonquière, en fait, comme Saguenay. Ils sont déjà rendus à 11 microbrasseries dans la région.
Wow!
Ça pousse, là. Mais tu sais, il y en a, c'est des microbrasseries, là, mais on appellerait ça nanobrasserie, là. Tu sais, ça peut brasser en 100 litres, 60 millilitres, et puis tu es tout seul, tu fais tes petites bouteilles et puis tu le vends.
Ah, ils ont le droit de les vendre.
Exactement.
Ouais. Ici, c'est compliqué, là, au Québec, là.
Très compliqué. Mais il y a eu surtout une évolution aussi dans les goûts. Là, la première année où j'étais au Festival des bières de Saint-Malo, là, nous, au Québec, on avait les premières New England IPA qui arrivaient. Celle de la Gabière, celle de Boréal, Noctem. T'sais, on avait cette grosse culture du houblon américain. Puis en France, ils se mettaient à essayer d'en faire, mais c'était pas comparable. T'sais, on me disait, hey, goûte ma New England IPA. Je goûtais, puis ça faisait tapeux, toi. Donc là, si je prenais dans ma valise, je craquais une IPA du Nord-Est de Boréal, et je fais, tiens, regarde comment nous, on les fait, les IPA du Nord-Est du Québec. Là, ça faisait, oh, c'est pas la même affaire. Puis tu vois, juste depuis là, l'année dernière, cette année, quand je suis allé en mars, on a déjà vu un gros changement, là. C'est les sour houblonnés, milkshakes, les pastry stout, là, il y en a en veux-tu, en voilà. Puis t'es en France, il n'y a pas de limite d'alcool pour la bière, là, c'est pas le 11,9 obligatoire.
Ah oui?
Et que tu peux te claquer des vins d'orge, t'es 14,5% en fait, pour bon avec des. C'est ça, la scène craft est vraiment belle. Puis moi, je suis allé brasser une bière avec deux amis, là, deux brasseries, on a fait une triple collab. Puis on a fait justement une sour, comme New England sour, avec des mûres et du cassis. Bon, ça, je ne l'ai pas encore goûté parce que les colis sont perdus dans la malle, mais ça a l'air que c'était marrant.
J'allais ouverte cette bière-là pour que j'en parle. C'est mon coup de cœur, honnêtement. Là, Vlad, un très bon choix. Elle est vraiment bonne. Elle goûte la pomme pour vrai. Là.
Ouais,
c'est toi, les pommes de Fenix, ça fait pas si longtemps. Donc, très bon choix. Très bon choix.
Merci. Un petit peu des spicy qui est super intéressant aussi. Il y a souvent des pures sauvages qui sont là.
Hey, Vlad, ferme ton son de ton téléphone.
Je n'ai pas de son ouvert sur mon téléphone.
Ah, OK. Parce que j'entends de l'écho.
Pas moi non plus, Marc, ça te dit.
Ok, non,
je ne fais jamais une chose de même.
Ok, c'est bon.
C'est pas grave.
Ok, je m'excuse, fausse alerte.
Tes appareils auditifs, vieux.
Hein?
Tes appareils auditifs, vieux.
Ouais, je ne l'ai pas mis, je m'excuse. Hey, tu l'avais 17h. Je peux te prendre encore 5 minutes, là, on peut-tu?
Vas-y.
Ton implication communautaire à Jonquière, vraiment, là, c'est toi qu'on voit beaucoup. Là, je pense que j'ai une idée pourquoi le son n'est pas bon. Là.
Quand c'est toi?
Ben, peut-être. Hein? Non, ton implication communautaire, Vlad, t'es partout. Je ne sais pas si ça fait partie de ton rôle, mais tu as fait une bière pour Jean Tremblay. Tu as fait une bière coulée pas chez nous,
que
j'ai adoré d'ailleurs, là, pour pas qu'on ait de pétrole dans le coin. Donc, tu avais dit pas d'eau, pas de bière, pas de bière, pas de fun. J'avais aimé comme un peu comme dicton. Là. Après ça, restauration de rue, tu étais impliqué partout, puis tu as fait des bières en collaboration avec Grimmskunk, Horloge Chimard. Avant qu'on parle d'Horloge Chimard, parle-moi de ça, qu'est-ce qui t'anime là-dedans, puis ça m'intéresse de voir vraiment, t'as l'air d'un gars qui a un grand cœur, qui donne beaucoup, puis t'as pas l'air de garder ton temps, tu sais.
Non, ben c'est ça, c'est exactement comme c'est comme tu dis là. On est des gens très ouverts. La microbrasserie, c'est une communauté d'accueil et de partage. Fait qu'on l'a fait naturellement en région. En région, c'est mieux de tenir l'écoute pour commencer à faire un voisin. Fait qu'on a essayé de. On a voulu faire, simplement, aider les uns les autres. Donc, justement, c'est quand on parle de collab, les premières années, on est en skateboard. On avait fait une collaboration avec un shop de skateboard, avec des planches non permis, non collées, puis on avait vraiment une bonne bière. On a fait la bière au café pour le barista qui était à côté de chez nous. Et après, ça a été des collaborations avec la brasserie. Par la suite, on s'est dit, si on fait des bières pour des brasseries, c'est pour en faire avec la famille pour des groupes de musique. Donc, ça a été une belle qu'on a fait avec Chris Kunk, qui sont ses potes. C'était avec Bernard Atamuf dans le temps. Il n'était pas accusé d'agression sexuelle.
Je veux dire qu'il y a de l'écho. Là. Je ne sais pas si c'est qui, mais il y a de l'écho. Mon téléphone est fermé.
Mon téléphone est fermé aussi.
Oh. 1-2, Tess.
Je ne m'entends plus.
Tranquille, pardon.
2-2.
Lab.
Moi, ça...
Ah, c'est toi.
C'est l'Internet haute vitesse, ça. C'est ça qui arrive.
Ouais, c'est pour moi, je pense que c'est la zone rouge. La zone rouge à Jonquière, ça donne ça.
C'est le parc qui est dur à traverser, je pense.
On va quand même continuer, le gars. On ne sait pas pourquoi. Mais là, je veux qu'on parle au Lodge Nord. Après ça, on va présenter les deux bières qui restent, les assemblages, le prospecteur, puis on va dire une soirée, c'est ce pour toi? Alors là, je suis mort. C'est un gars qu'on affectionne quand même pas mal ici. J'ai fait découvrir ça dans mon équipe de hockey. Puis j'étais en train de brasser de la bière dans mon garage. J'écoutais du Bob Bissonnette. Puis à un moment donné, j'ai entendu la pilote au bic. Et là, j'étais pas sûr d'avoir bien entendu. Mais c'était vraiment ça. Donc, parle-nous d'horloge, honnêtement. C'était intriguant.
Horloge, c'est des poètes des temps modernes. Très modernes. écoute, c'est des gars de la baie. Le Saguenay, c'est pas grand. Écoute, ça s'est passé un 31 décembre qu'on fêtait à l'Opéra. Je pense qu'on avait aussi fait un open bar. Puis on venait de faire une bière pour Green Skunk. Parce que Green Skunk, on a brassé deux fois avec eux autres déjà. Et il y avait le drummer d'Horloge Simard qui était là, qui me pogne. Puis il me fait, hey Vlad, là, vous avez fait une bière avec Grimmskunk, vous avez fait une bière avec un tel. Il fait, Chris, quand est-ce qu'on fait une bière pour Horloge? Fait qu'ils sont venus boire un coup, une coupe de mois après. Et puis, on s'est dit, on fait une bière ensemble. Ça a été pas plus compliqué que ça. Puis, c'est devenu des très bons amis. Donc, la bière, beuvez toujours, mourrez jamais, est sortie oui. En même temps. C'était un peu après leur album, je pense, leur nouvel album éponyme. Puis en tout cas, c'est ça.
Honnêtement, leur dernier album, c'est le moins bon. Là. J'étais un peu déçu.
Ouais, les autres étaient un peu plus virulents et un peu plus trash, je pense.
Ouais. Donc, c'est peut-être ça l'affaire.
Mais on avait une belle bière. Là, comme style de bière, on l'avait appelée la bière de bagarre. Une bière de type bagarre. On a fait quelque chose de traître avec un mou de chardonnay. Puis je ne sais plus trop ce qu'on avait mis dedans. Mais on avait fait quelque chose vraiment 9%, mais très, très, très pintable. Puis comme les gars sont portés sur la bouteille de vin rouge, on avait mis un mou de vin pour faire une espèce d'hybride bière et vin. Puis évidemment, le but de cette bière-là, c'est si t'en buvais beaucoup, t'avais le goût de te battre. Donc, c'était une bière de bagarre. Puis j'avais d'ailleurs comme anecdote d'avoir fait une chronique pour une émission de TV où l'animatrice m'avait demandé, vous êtes bon dans les accords mais bières, qu'est-ce qu'on mangerait bien avec une bière de bagarre? Donc, je lui ai répondu, on mangerait bien une volée. Et la fille est restée pouf, la réalisatrice a explosé de rire derrière, et puis ils ont conclu ça comme ça. Il n'y avait plus un bruit dans le studio à part la réalisatrice qui était crampée.
Le Québec, vraiment, t'as tout pris les dictons possibles. Tu t'es vraiment accaparé de toutes les expressions possibles.
Ben, il faut.
Manger une volée, c'est rien chez nous. Là. Vous dites pas ça chez vous en France.
Non, ben je commence à être perdu sur mes accents quand je retourne en France. Là, j'ai un peu plus de misère à m'exprimer en français de France.
Ah oui? En tout cas, là, je suis mort, tout un phénomène. Quand je suis allé manger à ton restaurant cet été, j'ai vu, il avait écrit quelque chose d'assez spécial, un peu sur sa
oui,
pochette.
Avec...
Vers les toilettes, il avait écrit quelque chose, manger de la merde, une affaire dans même, là, où je sais pas trop. Là.
Oh, mais
je
sais que le gars pénis pas de même, dessiner. Mais... Hein? Des petits pénis de dessiner dessus aussi, ouais. Et c'est ça, classique.
Non, c'est ça. Regardez la dernière bière, Vlad. Tu pourrais la commenter parce qu'on savait pas trop. J'ai parlé avec Philippe Lard, le brasseur de prospecteur. Il m'avait dit de prendre la 16, puis toi, tu m'avais dit de prendre la 17. Fait que Philippe, il dit, ben mélange les deux, ça va faire une 16.5. J'ai dit, j'ai trouvé l'idée très bonne. Donc, je vais aller chercher ma 17. Francis, il y a la 16, puis tu pourras nous parler de ces deux bières-là, puis on se dira à la prochaine fois, comme dirait René.
Super. Tiens, je vais juste me regarder mes photos, justement, de mes bouteilles.
J'ai coupé le son à Francis, puis il n'y a plus d'écho, ça fait quand même bizarre. Je m'excuse, Francky, mais pour vrai, j'ai coupé ton son, puis il n'y a plus d'écho. Fait que là, je vais rallumer, puis on va voir.
Attends, tiens. On peut la... Donc, toi, tu m'as dit que tu avais la 17.
Moi, j'ai la 17, puis mon ami Francis a la 16. Là, je ne suis pas capable de remettre ton son, Francis. Il faudrait peut-être que tu regardes. Là. Ouais, moi, j'ai la 17.
Tiens.
Alors, les deux valent la bonne, honnêtement, donc c'est un choix logique de prendre les deux.
T'as ça encore des co-marts si je mets ça de même avec mon casse.
Tout. Hey, j'aimerais savoir un trio Big Mac, s'il te plaît.
Trio Big Mac?
Donc, Francis, montre-nous donc ta 16. Qu'est-ce qu'elle dit de bon? Dis quoi de bon, la 16?
Ouais, un 6, vieux.
On va être pas mal sur les bières barriquées parce que moi, je suis aussi sur la barrique.
Oui. Bon, quoi, dans Malmström?
Malmström, mais c'est leur IPL de seigle, mais qui a été affiné en barrique de vin rouge.
Oh, intéressant.
Donc, on est aussi sur la levure sauvage quand même qui devait contenir. En fait, il devait y en avoir un petit peu dans les ports du bois. Là. Généralement, les fûts de chêne peuvent être un bon vecteur pour contaminer une bière avec des levures sauvages.
Oui.
Et qu'on a de la brette. Et puis, définitivement, dans les deux bières que vous avez, il y a de la brette aussi.
Oui, il y en a. Ouais. Ben, en fait, il parle du lac à brette. En tout cas, sur ma bière, il parle... je ne sais pas, non, c'est peut-être toi, Francis, là, que c'est marqué lac à brette.
J'ai un 46% de lac à la brette.
Ouais, lac à la brette.
Et Francis, toi, tu as des cerises dedans.
Ah.
Toi, tu dois avoir des cerises dans ta bière aussi, Francis.
C'est particulier comme odeur.
Moi, j'ai pas de cerises, Vlad.
OK, donc, ouais, c'est ça. Toi, Marty, t'es vraiment avec tout ce qui est plus sour. Il y a la barrique et puis je pense qu'il y a le vin d'érable aussi. Là. Donc là, tu vas avoir.
Il y a de l'Orvald. Au lieu de dire Val d'Or, ils ont dit l'Orvald. J'aime ça. Après ça, oui, c'est ça, vin d'érable québécois. Intéressant. Vin d'érable, qu'est-ce que c'est?
C'est vraiment du sirop d'érable fermenté.
Ah oui?
On peut... ben, en fait, normalement, il y en a qui n'aiment pas ça qu'on appelle vin quand c'est pas fait à partir de raisin. Mais oui, on peut faire un vin à partir de pas mal tout. Là, à Charlevoix, il y a un monsieur qui fait un vin de tomate qui est absolument hallucinant. Il a galéré assez solidement pour que ce soit reconnu comme vin de tomate, d'ailleurs. Mais tout est fermentissible, hein, tout ce qui est sucré, fruité. Mets une levure à vin dedans, et puis Tigidou, merci, bonsoir. T'as une belle baboche après pour boire en cachette.
J'adore les expressions. Honnêtement, moi, je l'aime beaucoup.
Pour ça que j'ai
pris la tête, elle m'inspirait moins.
T'as les levures sauvages, évidemment, mais t'as les belles bases de bière qui sont acidulées déjà. Et puis évidemment, il y a le chêne qui est là. Puis le chêne, on veut qu'il apporte les arômes de ce qui contenait, ce qui était contenu à l'intérieur avant. Donc, le vin pour toi ou bien le vin d'érable. Puis surtout, on veut que le chêne apporte des notes, d'autres molécules aromatiques qui vont être vraiment généralement vanillées sur le girofle, sur la noix de coco.
Ah, c'est des bières complexes, ça, là. C'est
très complexe. Tous les assemblages du prospecteur, là, c'est bien fait. C'est très bien travaillé, mais c'est beaucoup de complexité aussi. Moi, j'en ai goûté cet été, là, avec de l'Imperial Stout blendé avec telle affaire aux cerises, blendé avec ci, ça. Puis, quand t'as pas goûté.
Le mot blend, là, dans le fond, le mot français de blend, c'est assemblage, c'est ça?
Assemblage, oui.
OK, parce que souvent, il y a des bières qu'on voit juste blend. Puis je suis allé au King Yard à Sherbrooke cet été, puis on a vu des bières assez spéciales là, sur le menu. Puis c'est marqué blend. Puis j'ai lu quand même pas mal là-dessus, mais je le savais, que je le connaissais pas, mais en fait, c'est en français, ça veut dire assemblage.
Ouais, donc, c'est vraiment comme ce qui se passe pour les lambics, les gueuses, ou bien les spiritueux. On fait toujours des assemblages qui permettent de masquer certains défauts ou d'améliorer ce qui est déjà très bon.
Donc, super. Écoute, Vlad, on est 15 minutes plus que tu m'as demandé, que tu m'as donné. Je te remercie beaucoup. Je vais pas prendre ton temps. Tu as des enfants à aller coucher, comme tu as dit.
Ouais.
Ils ont quel âge?
Il y en a un qui est passé tantôt à quatre pattes en cachette là, pour voir ce que je faisais. Ah,
okay. Ils ont quel âge? Attention un petit peu, là, c'est ça?
Ouais. On parle de, il a 4 ans. On a 4 ans et le dernier a 5 mois seulement.
Oh, attention, ça se sent. J'ai commencé à 4 ans, Vlad.
Une soirée, j'ai mis un cadenas sur mon placard à bière.
Hey Vlad, merci beaucoup de ton temps. Puis pour vrai, j'aimerais, quand on va retourner là-bas, ben c'est sûr, je vais y retourner. J'aimerais ça qu'on se voit, qu'on se rencontre. Puis peut-être une collabo. Parce que nous autres, on a juste une toune, Vlad. On n'a pas d'étiquette. On fait de la bière à maison, mais on a juste une toune que Vincent nous joue tout le temps. Donc, on n'a pas d'étiquette encore, mais peut-être on pourrait parler d'un projet de collabo pour voir qu'est-ce que. On va payer ce que ça coûte, mais juste pour avoir une étiquette qu'on l'ait, on serait tellement content. Tu sais.
C'est parfait, on va s'organiser ça.
Ben, merci beaucoup. Je pense que les gens apprécient. Puis évidemment, ces lives-là, je les laisse sur. Je les mets dans la section annonce. Puis ceux qui n'étaient pas là parmi nous, ben, ils peuvent aller voir. Alors, vraiment, c'était vraiment intéressant pour vrai. Merci beaucoup.
Un gros merci à vous. Puis merci de faire rayonner la culture brassicole au Québec. C'est très apprécié.
C'est notre objectif. On la boit plus, Vlad, honnêtement. On la boit plus qu'on la fait rayonner. Mais ça,
c'est parfait, t'en prends. Il faut en boire de toute façon.
Fait que Vincent va jouer une toune, puis d'autres, on va continuer, Francis, pour une petite 15 minutes, c'est bon?
C'est bon, vieux, c'est bon, de la bière en masse.
Merci beaucoup, Vlad, vraiment gentil.
Salut, bye.
Salut tout le monde à Jonquière.
Au revoir.
Puis le lac Saguenay, lac Saint-Jean.
Oh!
J'étais encore qu'un enfant de cœur. Déjà, j'avais un cœur de rocker. J'aimais pas beaucoup l'école. Je ne vivais pour mes idoles. Yeah, yeah, yeah. J'étais encore qu'un teenager. Je vivais ma vie en outsider. Mon père voulait me retenir. Tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est « Tu vas faire mourir ta mère avec mon cœur de rocker. » J'ai jamais su dire je t'aime. Oui, mais maman, je t'aimais quand même. Comme personne n'a jamais aimé cœur de rocker, cœur de rocker, cœur de rocker. De toutes les filles qui m'ont fait craquer, la seule que j'ai vraiment aimée, c'est celle qui m'a quitté, j'étais bien embêté. C'est vrai que j'étais pas très fidèle, mais j'étais totalement fou d'elle. J'ai voulu la retenir, tout ce qu'elle a trouvé à dire, c'est « Tu vas finir ta vie tout seul avec mon cœur de rocker. » J'ai jamais su dire « Je t'aime. » Oui, mais bébé, je t'aimais quand même. Comme personne n'a jamais aimé cœur de rocker. Cœur de rocker. Cœur de rocker. Cœur de rocker. Avec mon cœur de rocker, j'ai jamais su dire je t'aime. Oui, mais maman, je t'aimais quand même. Comme personne n'a jamais aimé cœur de rocker. Vous allez l'avoir dans ta tête. Cœur de rocker, quand vous allez vous coucher. Cœur de rocker, quand vous allez vous lever. Vous allez l'avoir dans ta tête. Un cœur de rocker, avec mon cœur de rocker. j'ai jamais su dire je t'aime. Oui, mais bébé, je t'aimais quand même. Comme personne n'a jamais aimé un cœur de cœur. Cœur de cœur. Je continuerai là, si j'avais pas soif.
Cœur de rocker.
Cœur de rocker. J'ai jamais su dire je t'aime.
Ça, c'est vrai. T'as jamais été capable de le dire.
Non, c'est...
Un peu déçu.
On va prendre une gorgée, excusez.
Une gorgée de quoi, man? Je fournis pas. J'ai besoin d'aide.
On est, moi, je suis resté à cuvée alliage numéro 16, vieux. Ça goûte... honnêtement, ça sent un peu le after hate au départ. Et puis, après ça, ça se transforme en... Je sais pas, il y a le goût de menthe qui est présent là-dedans. Mais oui. C'est bon. Il y a de la brette, hein, vieux? Il y a de la brette.
La brette dans tout, puis c'était ça un peu le sujet aujourd'hui, là, les lovers spéciales. Puis, j'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui se sont garochés au Toit Rouge pour acheter les bières qu'on a proposées. Peut-être à cause de ça. Ben, en même temps, ça peut-être ouvrir les horizons des gens qui aillent. Je ne connais pas ça. Puis, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans ce qu'il a dit, c'est que tu retrouves plus de goût dans la bière que dans le vin parce qu'il y a plus d'ingrédients. Puis j'avais pas vu ça de même, puis c'est quand même vrai pour en faire avec toi, là. Mais honnêtement, c'est vrai. Tu sais, c'est intéressant.
Mais c'est moins bien vu. Tu sais, le vin est encore un petit peu plus haut dans le standing, si on veut, de la société. Mais ça, c'est pas grave. On n'a pas besoin de ça pour apprécier une bonne bière.
Fait que finalement, la bière, c'est comme un peu le produit des colons, c'est ça?
C'est le... Comment ils appellent ça? Le champagne du peuple.
C'est bon, ça.
Ouais.
Toi, Vincent, comment t'as trouvé ça?
Très intéressant. Vraiment.
Oui, mais quand même, le gars, il c'est un solide, là.
Ah oui.
Oui.
Ouais, c'est vraiment plein d'arguments qui font... Je vais les essayer, les brettes, un petit peu plus. J'ai déjà essayé un peu, mais ça donne le goût.
Moi, mon coup de cœur, c'est celle aux pommes. Ma blonde, elle l'a pas aimé, là, parce que c'est vrai qu'au nez, je suis content de savoir l'affaire de la brette, là, c'est la deuxième, comme on dit, la deuxième fermentation.
Ouais.
La brette, ben, j'ai compris d'abord à Donham pourquoi ça goûtait pas. Parce qu'on s'est fait jouer un tour. Là, ben, on les a goûtés, on les trouvait bonnes. Puis là, on arrive pour aller acheter de la bière dans l'espèce de petit kiosque. Puis, ben, moi, je veux pas de bière avec de la brette, ben, c'est juste ça qu'on a. Mais ben, voyons donc. Fait que, ouais, Donham, c'est 100% brette, il l'a dit tantôt. C'est juste, comme il dit, c'est une première génération, donc ça goûte pas. C'est plus fruité. Là, il y a un ami, Marco, je me souviens plus son nom de famille, mais Marco, il m'en a ramené de Donham, puis c'est tout de la brette.
Donc, la brette.
Ouais, donc, mais pour vrai, mon coup de cœur, moi, c'est la celle aux pommes, là, de 5
ans. Celle-là,
ouais. Ouais, elle était bonne, celle au miel. Effectivement, celle au miel.
Il y avait
on va les montrer, je pense. Ça vaudrait peut-être la peine, là, parce qu'il y en a qui s'ajoutent. Là, donc,
la Dolgo
à gogo, là. Ça, oui. C'est celle aux pommes, un peu. Là. Oui. Barriquée en chaîne 12 mois. Oh. Puis après ça, on avait évidemment la dernière volonté de notre hood.
Qui est plus subtil.
Ciel, qui est une bière belge.
Hey, c'est une IPA belge. Vieux. Il marque une IPA belge.
Oui, tu as raison. Ça, c'est exactement ça. Puis après ça, on a commencé soft un peu avec une saison plus relax. Je suis content qu'on ait commencé avec elle parce que c'est elle qui avait moins de caractère, mais oui, exactement. Pour partir, c'était merveilleux.
Ouais.
Là, on est en powerplay un petit peu. Donc voilà. C'est le fun aujourd'hui de se ramener à la bière parce qu'on s'était fait dire que quand on amenait des personnalités publiques plus sportives, on avait délaissé la bière. Alors là, on s'est reconnecté, puis j'espère que les gens ont été servis. Là.
Bon, mais Marthe, ça, c'est un subterfuge. Là. On n'a jamais délaissé la bière, tu le sais. Elle nous accompagne.
On n'en a pas parlé.
Oui, c'est ça. Elle m'accompagne même quand je vais me coucher. Elle m'accompagne avec ses dernières volutes d'alcool. Mais bon.
Pendant qu'on est en octobre, je propose une petite série sur Netflix qui s'appelle Oktoberfest Beer and Blood. Oh. Ça se passe dans les fins 1800, dans les débuts d'Octoberfest à Munich, en Bavière. Okay. Puis c'est tiré de faits vécus, comment que ça se passait là-bas. Puis il y avait quand même une guerre au niveau de la bière. Puis il fallait que tu aies un stand, que ça vienne vraiment de la Bavière, sinon tu ne pouvais pas. Puis il louait des tentes, un peu comme on fait aujourd'hui. Il y avait des tentes, tout ça. Puis il y avait une espèce de clan un peu secret, puis qu'il mettait la main quasiment sur une Bible pour dire que nous allons respecter que la bière doit venir du mal de nos terroirs. Puis c'était comme le Rheinsbrot, le Rheinsbrot, Brot, là.
Ça, c'est donc, c'est bien, là.
Hein?
Oui, j'ai compris.
Il a dit les dents, t'es bon, toi, tu l'as bien. Non, tu l'as bien, toi. Dis-le.
Le Rheinsbrot.
Et voilà. Donc, c'est qu'il y avait le malt, le houblon et l'eau. Là, j'ai oublié de demander à Vlad. La levure est venue un peu fuckée à patente des Allemands.
Elle était là. Ça, non, c'est.
Non. Oui, j'ai réécouté.
Elle était dans l'air, la levure était dans l'air. Puis ça, c'est Eric qui nous a expliqué ça. Eric Saint-Martin.
Oui.
Il nous a fait comprendre qu'elle était dans l'air, elle était dans la bâtisse. Puis quand ils changeaient de bâtisse, ils ne comprenaient pas pourquoi la bière ne faisait pas la même affaire. Puis là, ils se sont aperçus que la levure était pognée dans les structures de bois. Puis tout ça. C'est ça.
Donc, il ne savait pas, finalement. Il était là, mais il ne savait pas.
C'était la carte cachée.
Ah, intéressant. Mais bref, très bonne série, honnêtement. Là, il y a un petit peu de romance là-dedans, tout ça. Mais série méconnue, quand même, là, qui a un peu d'histoire là-dedans, qui est quand même intéressant.
Le titre,
c'est Oktoberfest, deux petits points, Beer and Blood.
Beer and Blood. Hey, ça, Beer and Blood, ça ressemble à Brosse-Sainte-Thérèse le jeudi soir, vieux.
Ça, c'est bien dit quand même.
Mais étant donné qu'on est des plugs produits culturels, moi, je veux juste te rappeler que si un jour vous avez la chance d'aller dans une bibliothèque, ils sont encore ouvertes en passant, il faut juste réserver en ligne, là. La série Les Maîtres de l'Orge, c'est une BD adulte. Il y a quelques passages sulfureux, mais très bon. Puis ça se passe justement dans les années, tu dis fin 1800 aussi, plus en Belgique. Puis ça traverse pour aller en Amérique. Puis bon, moi, j'ai compris que c'était comme le fondement de la compagnie Budweiser. Mais ça, c'est mes propres conclusions, là. Mais vous ferez les vôtres. Mais ça, a la chance des Maîtres de l'Orge.
Une BD. Intéressant.
Ouais.
Toi, Vincent, as-tu quelque chose à nous suggérer?
L'histoire de Django Reinhardt, c'est une BD qui est sortie. Django Reinhardt, qui est un joueur de guitare manouche, un virtuose. Qui a connu, c'est un gitan dans le fond, puis il y a eu un film là-dessus sur lui d'ailleurs, mais il y a une nouvelle BD qui est sortie qui relate plus son enfance, puis j'ai lu ça cette semaine, c'était excellent. Suggestion, bière et littérature, c'est génial.
C'est bien ça, bière et littérature, ça va bien, mais je recommande toujours, je me suis fait dire là, le beer, House Beer Save the World. C'est un documentaire de à peu près 55 minutes pour montrer comment la bière a sauvé le monde. Puis c'est le gars de Saint-Janvier là, qui a l'entêté, qui m'a amené là avec ce documentaire-là. Puis honnêtement, là, c'est vraiment vrai. Tu sais, il parle de la Révolution américaine, qui faisait des réunions dans des petits pubs pour monter la Révolution. Puis évidemment, il faisait ça autour d'une bière.
Ça leur donnait du guts un peu.
Ben oui, puis tu sais, tu parles un peu plus quand t'en prends beaucoup, tu sais, ça a l'air.
Yeah.
Fait qu'il y avait ça, il y avait aussi que la bière est devenue une espèce de médicament quasiment, puis on a parlé dans le live avec Boréal, parce qu'il préférait boire la bière que du lait ou de l'eau, parce que la bière, il la montait à 100 degrés, donc on éliminait toutes les bactéries, et il s'assurait de ne pas être malade. Donc, ça a quand même du vrai. Puis après ça, avec le kilomètre 12, quand on a parlé du gin tonic, mais le tonic à la base, c'est un produit qui était pour guérir des bobos. Je ne m'en souviens plus desquels, là, mais je sais que ça servait à ça. Donc, la plupart, dans le fond, puis on revient au coke, là, la liqueur, le Coca-Cola, il y avait de la cocaïne à l'époque dedans. Puis quand ils se sont rendus compte que c'était dangereux, ben, ils ont dit, on arrête ça tout de suite, là, ça crée des problèmes. Puis c'est là que Pablo Escobar n'a pas aimé ça. Là. Mais bref, je me rends compte que l'alcool, la drogue, à la base, c'était comme bien pour aider, puis c'est devenu problématique avec le temps.
Mais, qui dit le rock and roll.
Et le rock and roll.
Bernard Bourrette dit, pouvez-vous, est-ce qu'on peut recommencer, Bernard? Non, on ne peut pas recommencer. On a commencé à 6 heures, ça, excuse, là. Bernard, on est tous des phases. On ne sait pas quand est-ce que les gens peuvent venir. T'sais.
Non, mais Bernard, il nous a envoyé des pièces. Il ne faut pas ouvrir en passant. Ceux qui.
Moi, ouais, je n'ai pas ouvert.
Ah, moi, je me suis fait avoir, vieux, mais bon, pas grave.
Eh bien. Bon, ben, je pense qu'à une heure et demie, c'est quasiment notre record, Francis.
Oui. Et ça a passé super vite, honnêtement. Fait que t'as bien fait ça, Marthe. Franchement, toujours aussi bien préparé. De plus en plus, tu s'en viens. Bon intervieweur. Moi, Guillaume Lepage va prendre sa retraite, là, vieux.
Couleurs. Je vais suggérer ton nom. Écoute, je suis daltonien, fait que faut que je me sens en couleur.
OK.
Pas le choix. Mais quand il m'a dit qu'il y a une heure, moi, il avait dit une heure et demie. Fait que là, j'avais fait, d'après moi, un contenu d'une heure et demie. Quand il a dit une heure, il faut couper un peu dans le gras. Donc, on a bien fait ça. Puis honnêtement, c'était dur de le couper parce que c'était tout le temps intéressant. Mais à un moment donné, il fallait... tu sais, on avait des questions, mais c'était un moulin à parole.
C'est bon. Franchement... À part tu m'écoutais couper le micro, mais ça... regarde, je pense... De toute façon, dans une heure de même, tu sais, on ne peut plus prononcer le mot qui commence avec un N. On ne peut plus montrer des caricatures de
musulmans. De Mohamed.
De Mahomet. Fait que, tu sais, regarde, je m'inscris dans la même lignée qu'eux autres. Fait que je me suis fait censurer par Marty. Mais je t'en tiendrai pas rigueur, vieux, à 2 heures
du matin. Eh bien, smart. Ben, pour une fois que c'est toi, d'habitude, c'est le temps à moi, le problème.
Oh, oui, cool.
Fait que là, ben, c'était toi, mais fallait faire des tests. Donc, Francky, là, d'après moi, la zone rouge, on n'est pas sorti de là encore, là. Donc, peut-être regarder aux 2 semaines. On va essayer de trouver un nouvel invité. J'aime ça. Moi, l'aspect invité, c'est quand même cool. Je pense que c'est intéressant, là, d'aller voir des gens. Moi, Vlad, il m'a inspiré à trouver des gens toujours dans le thème de la bière, la bouffe, puis toujours rester dans le terroir québécois. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, tout à fait. Puis, il y avait la notion de musique aussi. J'aurais aimé ça y poser des questions sur Groovy Aardvark. Ça fait longtemps qu'on les a pas entendus live. Ils ont-ils fait des nouvelles tunes, nous autres? Parce que Groovy Aardvark, c'était la tune de Boisson d'Avril.
Ah oui, avec Yves Lambert.
Ben oui, avec Yves Lambert.
Yvon, c'est joueur de hockey, je pense.
Oui, c'est ça.
Ouais. Ah, c'est ça, Yves Lambert, ouais, c'est bon, c'est bon.
Yvon, il est plus à Molson.
Il y avait des belles histoires. On va les raconter, qu'à Montréal, Québec, il faisait ça avec... Non, ça prenait 6 bières, ça rentre là. Je peux pas croire. Mais ouais, non, mais je regarde peut-être aux 2 semaines, puis on pourrait regarder. J'ai des idées en tête, là, mais au mi-novembre, il y a une grosse pointure là, qui s'est intéressée à peut-être collaborer. Là. C'est un gars qui est intolérant au gluten, mais je lui ai dit qu'il y avait des bières sans gluten. Et là, oh, OK, t'as un peu, ça m'intéresse. Donc, je travaille sur un projet avec Pierre-Yves McSween présentement. Donc, mi-novembre, là, il m'a dit de le relancer, puis ça l'intéressait de se joindre à nous pour un petit live. Donc, ceux qui s'intéressent, là, acheter son livre, commencer à le lire, puis je lui ai dit qu'il allait peut-être avoir pas mal de questions parce qu'il a fait un livre Liberté 45. Là.
Ça se peut que je sois à retraite, déjà, moi, quand ça sort. Oui,
bien, c'est ça. Tout le monde est là. Hein, on est tous rendus là, évidemment. Parce que le gars, il est vraiment. J'ai regardé son lancement de livre sur Facebook, comme on fait là en ce moment. Puis j'y ai parlé tout de suite après. Je l'ai pris au jeu, puis il m'a pas dit non. Donc, mais d'ici mi-novembre, on va regarder avec d'autres brasseurs là, que ça serait le fun ça serait une belle avenue là, de regarder avec des gens qui brassent de la bière.
Oui, puis ça serait le fun, Marc, de parler des bières sans gluten. Là. Il y en a de plus en plus, des intolérants des ciliaques. Voyons, c'est quoi en français déjà? Au lactose ou des intolérants au gluten, excuse-moi. Merci. Ouais.
Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a moyen. Je vais essayer de faire m'en lancer des affaires. Là. Je vais lancer des espèces de courriels qui appellent. Là.
Ah oui?
Puis c'est sûr que c'est quand tu dis que tu as fait un live avec Vlad, tu viens d'augmenter en crédibilité. Donc, possiblement, ça pourrait être possible.
Good.
Alors, Vincent, on va te laisser finir avec la toune thématique. Parce que nous autres, on a juste une toune, hein, c'est qu'on fasse.
Pourquoi pas? T'as mettras sur...
Ce qui est dommage, c'est que c'est à 19h34 qu'il y a le plus de monde. Donc, il va peut-être falloir regarder l'heure. Là. Je pense que 19h pourrait être une heure possible. Je sais pas, là, que vous en pensez.
Ça se peut, vieux.
Le baseball va être fini.
Oui.
Hey, salut Francky, salut Vincent, merci.
Salut Marty, salut Vince, on te laisse le mot de la fin.
Faut passer le temps, j'ai rien à faire. J'ouvre la porte, y'a rien dans le frigidaire. J'me trouve une bière, je l'échappe à terre. Maudite misère, je tombe en enfer. Avant de partir de sa brosse, il faut déguster la belle brosse. Avant de partir de sa brosse, il faut déguster la belle brosse. Trois balles de prise, il faut que je dégrise. Il y a trois hommes, c'est bu, mais je suis déjà dans la rue. Avant de partir de sa brosse, il faut déguster la belle brosse. Avant de partir de sa brosse, il faut déguster la belle brosse. Shoot le porte dans le fond, tout du bon ou blanc. Va pas trop loin, on a tout ça dans le coin. Il faut que tu bouges, traverse au toit rouge. Oublie tes soucis, appelle tes amis. Avant de partir de sa brosse, il faut déguster la belle brosse. Avant de partir de sa brosse, il faut déguster la belle brosse.
Yes, sir, Vince.
Hey, boys. Hey, c'est cool, là, tabac.
Ouais, c'est le fun, hein? Ça met les pendules à l'heure. On a du plaisir.
Ouais. Mais ça.
À plus. Allez,